Hello les amis, attendez, je vais vous couper cette musique qui est repartie, on est reparti pour un tour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Attendez, je suis en train de tout installer, le son me semble ok, l'image, a priori je me vois, la tablette est branchée, celle-là sur TikTok, vous n'en avez pas besoin pour l'instant, je vous l'enlève et je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue en ce mardi 21 octobre 2025. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai pas beaucoup lu le chat là. J'étais en train de me faire un café. Et ben je me plonge dedans. Merci Popsinou, merci pour le deuxième mois. Merci Eviga, merci pour le troisième mois. Vous régalez. Merci beaucoup. Alors c'est la première chose, café. Deuxième chose, le chat. Je remonte un petit peu dans le chat, les deux, Twitch et TikTok, puisque depuis quelques semaines, on stream sur les deux, depuis 5 ans sur Twitch, depuis quelques semaines sur TikTok. Ça nous fait deux fois plus de messages intéressants. Vous allez bien, vous, ça va? Bien. Ouais, bah ça a l'air d'aller, ok. Incroyable le monde qu'il y a eu hier, c'est fou ça. Le Monde, cette revue de presse hier. Mais incroyable! Plus de 20 000 personnes sur Twitch. 7 000 personnes sur TikTok, les amis. Près de 30 000 personnes en tout. Des gens qui se passionnent pour l'actualité internationale, nationale, pour ce qui se passe à Gaza, la crise politique en France, la question de la dette, les impôts, la réforme des retraites. Moi, ça me fascine. Moi, je dis bravo. Je trouve ça incroyable que vous soyez aussi nombreux à vous passionner pour l'actualité. Je trouve ça extrêmement sain et vraiment, je m'en félicite. J'espère que vous serez aussi nombreux ce matin. Voilà. Petite pensée à Sarko qui va finir dans l'équivalent d'une chambre d'étudiants. Oui, Yasmine, Sarkozy en prison, c'est aujourd'hui, on va en parler, ouais. Bien, Lanso, je te rappelle que le second degré n'est pas qu'une température et c'est cadeau. Je suis égoïste, je préférais qu'on était moins nombreux du Marvel BTH. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très très bien aussi, c'est bien, c'est plus on est de fous. Hein? Bon, est-ce que vous, ça va? C'est très gentil, je vois certains qui prennent de mes nouvelles, c'est très gentil. Mais surtout, est-ce que vous, ça va? Est-ce qu'il y a des vacances? Est-ce qu'il y a des vacances pour certains? Voilà. Normalement, c'est une période de vacances pour certains, là. Merci beaucoup, Adsol, pour ton message. J'aime trop Lorraine. Merci, Zina. Ouais, Lorraine Lévy qui arrive dans MVP demain, ouais. Bien vu. Je vous parle de ces affiches dans un instant. Mieux qu'hier, me dit Sugar. Ah, cool, ça je suis content. On m'a viré, me dit Joji. Oh, ça c'est pas cool. Force, Joji. Ok, un boulot que t'aimais ou pas? Un boulot que t'aimais ou pas? J'espère que tu vas pouvoir rebondir vite. Et genre mieux, dans un taf qui serait encore plus sympa. Ce serait vraiment le truc top, quoi. Ok. Ça va aller, on te soutient, faut pas faire gaffe aux gens qui parlent mal pour rien. Mais on s'en fiche, Freezer. Je suis vieux, moi j'ai le cuir tanné, c'est pas grave tous ces trucs-là, ouais, c'est une histoire de plus, une polémique de plus. Vous inquiétez pas les amis, tout va bien, l'important c'est que vous alliez bien. Merci Aquafallen, c'est gentil. Oh, on est habitué, vous savez. Des congés tellement attendus du côté de Santana Shore. Ok, il y a des vacances ou pas? Pas de vacances, il faut rembourser la dette, me dit El Molusco. Vacances ou pas? Actuellement en repos après une opération de la cloison nasale, Zoram. Ok, force. C'est pour ça que j'étais en retard ce matin, j'ai accompagné quelqu'un de ma famille à l'hôpital. Au lieu de lancer à 9h, 9h30, bah du coup je lance à 11h18 et je m'en excuse platement auprès de vous tous. Vacances au Portugal, ok, let's go. Pas de vacances du côté de Yuga, force pour le travail. Ok. Force MMG, force MMG. Pour ces vacances qui durent trop à ton goût. Merci Bordeaux Live. Ah mais tout va bien moi Bordeaux Live, tu sais. Tout va bien. T'inquiète, vous êtes très gentil, vous inquiétez pour les petites vaguelettes sur les réseaux sociaux, mais ça c'est rien du tout ça. J'avais fait des travaux sur la défiance des politiques en EMC, c'est grave passionnant. Oh oui, il y a un sujet passionnant là-dessus dans Le Monde sur comment la défiance, la méfiance des Français et des Françaises vis-à-vis des politiques, des responsables politiques ne continuait à croître. C'est un des derniers sujets qu'on traitera ce matin. Il est vraiment très intéressant. Ouais. Ok. Force pour l'arrêt maladie, Marceau. Petite semaine de vacances. Vacances, garde des enfants. Pas de vacances également. Vacances à la maison comme toujours. Entretien d'embauche cet après-midi. Popsinou, je te souhaite le meilleur. Oui, il y a un podcast, mais le podcast, il n'est pas en direct. Le podcast audio, ça, c'est une nouveauté que certains me demandaient depuis longtemps. Le fait de pouvoir écouter cette revue de presse tous les jours en podcast audio, c'est du replay. En gros, c'est posté à partir de 15-16 heures sur tous les podcasts audio, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts, tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment que. C'est du podcast audio, c'est pour le replay, c'est pour le consommer après quoi. Le live, c'est sur Twitch et TikTok. Virus gastrique en vacances, pas cool ça. Merci Asti. Aujourd'hui, c'est animation sur la culture geek dans un centre commercial à côté de Pau. C'est pas mal ça. Pas mal. Force Little Kimo pour le bureau. Pas de vacances pour les stagiaires. Pff, c'est dur. Alors Samuel, ça fait quoi d'être accusé du vol du Louvre d'après le Figaro? Ah, le Figaro a écrit aussi un truc là-dessus? Sérieux? Louvre? Alors le Parisien, j'ai vu. Je suis dans toutes les histoires, moi. Je suis dans toutes les histoires. Hein. Il y a eu des... Blascapa, il y a eu des articles dans la presse écrite. Des manifestations de No Kings aux États-Unis. Dans la presse que je lis, oui, peut-être pas dans les médias audiovisuels. Ah oui, c'est vrai. Il y a un article dans le Figaro. Ok. Ok. D'accord. Cette image commence à circuler. Samuel Etienne fournit un alibi après le cambriolage du Louvre. C'est une vraie histoire. Le Parisien a fait ça aussi. Ok. Non, les Blascapa, il n'y a pas eu 1000 articles, mais il y a eu quelques articles dans la presse. Ouais. Mais t'as raison, ça n'a pas été hyper couvert. Merci Bordeaux Live. C'est l'âge, c'est l'avantage de l'âge. Oh, One Blue Tiger, mon pauvre. Ok. Force pour l'arrêt maladie au grand ours, la guidure depuis si longtemps. Intéressant ça. C'est curieux, la défiance augmente envers les politiques, me dit Edius67, et pourtant on fait des choix politiques qui tendent de plus en plus vers la noirceur, dis-tu. Bah on se penchera là-dessus, ouais. Salut Alexandra! Bon, super. Bon, je suis avec vous jusqu'à. Merci de des nouvelles. Dans le sommaire, il y a. Enfin, dans le sommaire du jour, il y a un bonjour. Bon, j'aime bien prendre le temps. En général, on va jusqu'à une demi-heure. Mais bon, il y a beaucoup d'actu aujourd'hui. Et je vous abandonne surtout à 13h30, puisque j'ai deux réunions, deux Teams qui s'enchaînent cet après-midi. Avec. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, 13h30. Petite revue de presse, vous dites pourquoi? Oh, ça fait. Ah, ça fait que 2 heures? Ah non, j'ai repoussé à 14h. Non, j'ai repoussé à 14h, j'ai repoussé à 14h. J'attends la confirmation du report de mon rendez-vous. Voilà, j'espère que Pierre verra. Attends, je lui envoie un deuxième. Voilà. J'ai repoussé à 14h, donc ça nous fait 2h30. Donc on va y aller. On va faire le. Attends, j'envoie un deuxième texto à la même personne. J'ai l'impression qu'elle n'a pas vu son WhatsApp. Et on y va, on y va, on y va. Trêve de billevesée. Pierre, hop, c'est parti, Pierre. Voilà. Tac. Ok. Sans tarder. Bon. Alors, les amis, pour ceux qui ne savent pas, la matinée Étienne, c'est un moment où depuis 5 ans. Sur Twitch, je lis les journaux, je m'intéresse à l'actualité. C'est tous les jours désormais, du lundi au vendredi. Hein? Et puis, donc, je choisis des sujets. Là, vous les avez en sommaire. Là, vous voyez, c'est les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. On en parle pendant 2-3 heures. Je lis les articles, vous me donnez votre avis. J'émets le mien, qui vaut rien du tout. Hein, c'est juste mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Et on échange là-dessus. Ça dure depuis déjà 5 ans. Voilà. Et sur TikTok, un peu moins longtemps, mais à un moment, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous exposer ce rendez-vous aussi. Ok. Les petites affiches que vous voyez ici, ça c'est le MVP uniquement sur Twitch. C'est une émission dont je suis très fier qui fête sa deuxième saison. MVP Ma Vie Pro, c'est une émission qui explore quoi? les voies professionnelles, les métiers, les secteurs d'activité, l'orientation, les études. En genre, t'es au collège, t'es au lycée, t'es étudiant, mais tu t'interroges sur ton avenir, ce qui est bien normal. Qu'est-ce que je ferai plus tard? Ou alors tu travailles déjà et t'es pas super heureux dans ce que tu fais. Peut-être que tu te dis que tu pourrais t'épanouir dans un autre métier, par exemple. On a créé une émission là-dessus. Elle est vraiment sympa, avec trois chroniqueurs à chaque fois, avec plusieurs invités. Et là, c'est l'affiche de l'émission de mercredi de demain. Donc, à 9h demain, il y aura une petite revue de presse, mini revue de presse, uniquement sur Twitch. Hein. Elle sera pas sur TikTok, celle-là. À 10h, MVP, avec nos trois chroniqueurs. Et donc, Ludovic B., notre spécialiste des métiers, Lorraine Lévy, que j'aime beaucoup, et l'ami Jean Massier. Voilà. Donc, on va parler de plein de sujets différents. Il y aura des petites chroniques, des petits jeux, des actus. Des coups de projecteur sur des métiers, un invité mystère, etc. Et puis un coup de projecteur sur, je crois, la santé mentale au travail. La santé mentale au travail. Voilà. Ça, c'est l'un des coups de projecteur qu'on fera demain. Je pense que c'est assez important d'en parler. Et puis, on a à midi, à chaque fois, une invitée, qui est l'invité MVP, avec qui, pendant 1 heure, on revient sur sa carrière. On a eu Alexandre Astier, le papa de Kaamelott, la dernière fois, il y a 15 jours. Et puis demain, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant, c'est la créatrice de contenu Catsup, Kalina, qui nous a bluffé au dernier GP Explorer notamment. Je crois qu'on sur le visuel, elle est en tenue de pilote d'ailleurs, et c'est une sacrée pilote. Donc je suis très heureux de l'accueillir demain. Voilà, j'espère que vous serez nombreux pour lui poser des questions. Rendez-vous donc demain, je vous en reparlerai d'ici la fin de ce live. Ah voilà. Et je vous enlève ça, je vous le remettrai tout à l'heure. Tac, tac, voilà. Ouais, Alexandre Astier, c'était cool, ouais. Ah, c'est une émission sur la police, avec plaisir, j'interviendrai. Ouais, je crois qu'il n'est pas impossible qu'on parle du métier de policier, ouais. Un jour, ouais. Je crois que c'est un projet, ça. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, on y va pour le sommaire? Ok, alors il est. Normalement, le sommaire, c'est à 30 minutes, hein. Mais là, on accélère, on a plein de choses. Et donc le sommaire aujourd'hui, on le fait à 16 minutes. Je mets les time codes. Pourquoi? Comme ça, ceux qui revoient cette émission en replay. 16 minutes. Eh bien, du coup, ils savent où on en est. Et surtout, et ceux qui nous rejoignent dans cette revue de presse live, ils savent aussi où on en est. OK? Alors c'est parti pour le sommaire. Je mets juste les petites flèches qui vous permettent de savoir où on en est. Et de le dire à vos petits camarades. Ah, mais est-ce qu'il parle de ça ce matin? Et comme ça, vous pouvez dire, bah, t'as qu'à regarder le sommaire! Ok? Let's go. Alors, on va revenir sur cet incroyable vol au Louvre. Alors, on en a parlé hier, hein, je crois que c'était la première actu qu'on a traitée. Peut-être qu'il faut que je vous mette la tablette d'ailleurs, parce que vous ne l'avez pas là, Samuel. Oh, Samuel. Voilà. Donc, bon. On ne peut pas dire que l'enquête est vraiment avancée, mais on se pose plein de questions hein, là-dessus. Voilà. Ils ont volé l'histoire de France. Voilà. La une du Parisien avec l'interview d'un expert en bijoux et en pierres précieuses, hein, notamment sur qu'est-ce que pourraient faire les malfaiteurs avec ces bijoux. Hein. Branle-bas de combat pour la sécurité, parce que ça pose plein de questions, bien sûr. Oh, c'est marrant, Joji, la galaxie, là. C'est trop mignon. Plein de questions. Vous avez bien le TikTok, vous avez bien le chat? Vous avez bien le chat qui s'affiche sur votre écran? Tout va bien? J'avais juste un doute. Vous me dites. Hein. Ouais, sur TikTok, vous l'avez? Ok. Donc, des questions sur la sécurité au Louvre, voilà. Et puis des diamantaires, des gens qui sont spécialistes du commerce de diamants, qui disent oh, c'est impossible à fourguer ce truc. Bon, on se penchera là-dessus. On va essayer de prendre un petit peu des infos et je répète que j'ai un alibi. Pour cette histoire, dernières heures de liberté pour Nicolas Sarkozy. Voilà. Voilà, aujourd'hui, il est attendu à la prison de la Santé à Paris, voilà, pour être emprisonné. Combien de temps? D'après les articles que j'ai consommés la semaine dernière, il y a un temps minimum pour qu'il puisse faire appel, enfin que sa demande de libération soit examinée. Ce temps minimum, c'est de l'ordre de 3 semaines. Il y est? Ça y est, il est arrivé, depuis 9h30. Okay. Et c'est ça que j'aime dans le chat, voilà. Cette réactivité à l'information. Voilà. Certains me disent 10h45, certains me disent 10h, certains me disent 9h30. En tout cas, il y est. Ok, merci. Il lit pas son chat d'habitude ou c'est juste aujourd'hui? Je lis le chat, après je lis des articles aussi. Et en fait, j'ai que 2 yeux. Et en fait, jusqu'à preuve du contraire, il est assez compliqué de lire un article et de lire le chat. Alors j'essaie de vous lire le chat, maximum. De temps en temps, je fais des pauses dans les articles pour vous lire. Mais ton message extrêmement important, tellement important que parmi les milliers de messages qui défilent, j'aurais dû le lire, parfois je peux le louper. Et je pense que même en étant victime du syndrome du personnage principal, tu pourras le comprendre. Donc on va se pencher sur eh bien, la prison pour Sarkozy. Alors il y a un papier assez factuel dans Le Parisien qui nous donne les infos. C'est carrément la une de Libération. Hein. À l'ombre, hein, l'ancien président de la République condamné en première instance pour association de malfaiteurs. Hein, c'était dans le dossier de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par le pouvoir libyen. Dormira ce mardi soir en prison. Un événement sans précédent, jamais un président de la Ve République n'est allé en prison. Hein. Dramatisé à outrance jusqu'au sommet de l'État. Voilà. Donc, on lira le dossier de Libé. Là-dessus, l'ex-président touché, écroué. Je pense que c'est une petite blague avec touché, coulé. Voilà. Et puis, il y a un journal, en tout cas, un journaliste de ce journal, Le Figaro, qui prend la défense de Sarkozy, parce qu'il y a aussi certains médias qui prennent la défense de Nicolas Sarkozy, qui disent on n'aurait jamais dû mettre l'ancien président en prison. Voilà. Et c'est Le Figaro. Voilà, et c'est précisément Vincent Trémolet-Villers qui parle d'un despotisme judiciaire. Voilà. Qu'est-ce que j'essaie de faire le matin? C'est de vous proposer différents journaux, différents articles, différentes analyses, différents regards sur la même actualité, pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Vous avez Libé, qui est un journal qui a priori se félicite plutôt de cet emprisonnement, et Le Figaro, qui le regrette. Comme ça, vous avez des arguments, vous en faites ce que vous voulez après, quoi. Gaza, vous savez que sur cette chaîne on parle du Proche-Orient et singulièrement de la situation à Gaza presque tous les jours. Et là on a un dossier dans La Croix qui est même le principal dossier de La Croix. À Gaza, vivre malgré tout. Malgré la fragilité du cessez-le-feu, des Gazaouis tentent avec grande difficulté d'envisager l'avenir dans un territoire détruit à 78%. Voilà. Donc on a La Croix, c'est un journal qui travaille avec. En général, avec beaucoup de rigueur. Et alors que le cessez-le-feu là est très fragile, dans le cadre du plan de paix de Trump, s'est appliqué, puis a été violé, puis se réapplique. Cessez-le-feu extrêmement fragile, va-t-il déboucher sur la paix ou pas? C'est la grande question. En tout cas, ici, on s'inquiète notamment du sort des Palestiniens, donc on lira ce papier. Amis de TikTok, c'est pour vous. Alors, TikTok, c'est un instrument. Que je trouve extrêmement intéressant, qui peut servir à faire plein de belles choses. Sur TikTok, dans mon fil TikTok, il y a des choses que je trouve extrêmement intéressantes. Mais il y a un problème sur TikTok, et vous le savez, c'est l'algorithme. L'algorithme, il va avoir tendance à vous proposer des choses dont il a détecté que vous les consommiez. D'accord? Que ce soit bien ou mal pour vous. Et donc, ce qu'on a constaté, ce que des jeunes ont constaté, que des familles ont constaté, des chercheurs ont constaté, c'est qu'il y a y a des jeunes gens qui ne vont pas fort, qui sont en état de détresse psychologique, qui vont commencer à consommer, bah, on va cliquer sur un truc un peu dark, qui parle de suicide, de scarification, ou autre, et que va faire l'algorithme? Il va lui en proposer plus. Voilà. Et ça pose beaucoup de problèmes. Voilà. Donc il y a une enquête d'Amnesty International qui dénonce cela. Il y a un article dans Le Parisien sur TikTok des ados enfermés par l'algorithme. C'est un vrai sujet. Peut-être que votre fil sur TikTok, comme le mien, il pose pas de soucis. Mais il peut aussi être très problématique. Et on a une maman qui s'appelle Stéphanie Mistre. Voilà. Nonaim, tu sais que j'ai annoncé hier qu'il y en a un ou une qui allait prendre. Ici dans le chat ou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a des débats et des polémiques sur Internet. Mais il y a certains qui. C'est pour toi, Nonaim, qui dépassent les bornes. Et notamment qui m'accusent de choses extrêmement graves. Parce que tout simplement, vous n'avez pas de cerveau. Et vous racontez n'importe quoi. Et il y a parfois les accusations qui vraiment dépassent les bornes. Hein, il y a ne pas être d'accord et puis il y a dire des choses gravissimes. Hein, et des choses qui sont, sur un plan judiciaire, répréhensibles, condamnables. Je l'ai annoncé hier, il y en a un de vous, un jour, peut-être aujourd'hui ou demain, ici dans un chat ou sur un réseau social, qui va se prendre une plainte en justice. Voilà. No Name, par exemple. Ça peut être toi. Hein. Ton pseudo ne te protège en rien. Si je fais une plainte, la justice va trouver ton nom, ton IP, hein, et tu vas te prendre une convocation. Hein. Et il faudra que tu expliques pourquoi tu as tenu ces propos, hein, ces accusations graves. Hein. Donc on va se calmer un petit peu. Hein, parce que... oui, je confirme, j'ai vécu, dit Ewin. Tu vois, ça fonctionne très bien. Donc, il y en a un qui prendra pour les autres, ça fera un petit exemple, ça calmera tout le monde. Nonem, si tu veux te calmer un petit peu, n'hésite pas. Sinon, c'est pour toi.
Ok.
Donc, par exemple, on a une maman ici, une maman qui s'appelle Stéphanie Mist, qui a perdu sa fille, qui s'est suicidée. Voilà, après avoir été exposée comme ça à des contenus problématiques sur TikTok. Voilà. Alors ça, c'est un sujet intéressant aussi, c'est la crise politique en France, bon, celle qu'on documente, dont on parle quasiment tous les jours ici. Et elle nourrit la défiance des Français vis-à-vis de la classe politique. Et cette défiance, cette méfiance même, elle grandit en fait. Donc là, c'est le principal dossier dans le monde. L'instabilité accroît le rejet du personnel politique par les Français, ce qui n'est pas très nouveau. Hein. Selon la nouvelle étude Fracture française menée par Ipsos pour le Monde. Plus de 9 personnes interrogées sur 10 se disent mécontentes ou en colère. Près de 60% souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Ok, excusez-moi. Hop. 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 Voilà. Plus de 9 personnes interrogées sur 10 se disent mécontentes ou en colère. Près de 60% souhaitent la démission d'Emmanuel Macron. Ouais. Le Rassemblement National est le parti politique dont les Français se sentent le plus proche ou le moins éloigné, loin devant tous les autres. 8 Français sur 10 estiment que le système démocratique fonctionne mal en France et qu'ils ne sont pas bien représentés. Bon, je trouve ça assez intéressant. On a un dossier un peu complet sur cet énorme malaise démocratique. Et puis on a un constat intéressant, c'est que il y a un parti notamment qui tire de plus en plus son épingle du jeu dans cette histoire, c'est le Rassemblement National. Voilà. Et puis, également en une du Monde, regardez, donc je vous ai remis la une du Monde, un gros dossier sur Airbnb. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont des utilisateurs d'Airbnb, des gens qui louent un logement en tant que propriétaire ou qui louent en tant que locataire parfois du Airbnb. Voilà. Ce qu'on apprend dans le Monde, c'est que la France est devenue le deuxième marché d'Airbnb dans le monde. Alors c'est que la France est un pays très touristique, ceci expliquant peut-être cela. Airbnb qui a fait de la France son terrain de jeu favori. Voilà. Je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup. Mais on a un dossier là-dessus sur le succès d'Airbnb en France et sans doute aussi sur les problèmes que ça pose. Parce qu'on n'est pas sans savoir que Airbnb vient fragiliser encore plus le secteur du logement en France. En France, et c'est un scandale, il y a plein de gens qui ont énormément de mal à se loger. Hein. Il n'y a pas assez de logements et c'est trop cher. Et le système Airbnb vient renforcer cela, notamment dans certaines villes, dans les grandes villes et notamment les plus touristiques, en retirant du marché locatif classique des logements qui vont plutôt être proposés à la location courte, notamment aux touristes. Voilà. Et donc ça vient nourrir ce problème. Donc je pense que le Monde va se pencher sur la globalité de ça.
Et là, oui, et puis sans compter le manque à gagner pour les hôteliers, bien sûr.
Bon, je vois que le sujet vous inspire, c'est cool, on en parlera tout à l'heure. Voilà, voilà pour le sommaire, vous en pensez quoi de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est pas mal, non? Comme actu. Quand même pas mal de choses, je trouve. C'est riche. C'est... Ouais. Intéressant sur Airbnb. Oh, tout intéressant, quoi. Hein? Je vous lis un petit peu et puis on commence cette revue de presse. Sarko peut être gracié. Sarko peut être gracié par le président de la République. C'est un pouvoir, comment on dit, discrétionnaire, c'est ça, du président. Mais je crois qu'il ne peut pas le faire si Sarkozy fait appel. Voilà. Hein, enfin, c'est ça. Il peut pas être gracié pendant la procédure. Il faut que les voies de recours soient épuisées. Il aurait fallu que Nicolas Sarkozy ne fasse pas appel et donc reconnaisse sa culpabilité. Et or, Sarkozy, il veut pas. Donc c'est constitutionnellement possible. Macron peut gracier Sarkozy, mais il ne peut pas le faire en ce moment puisque Sarkozy a fait appel et Sarkozy ne veut pas reconnaître sa culpabilité. Voilà. Il ne peut pas être gracié, il faut avoir le jugement définitif. Alors le jugement, il pourrait être définitif si Sarkozy ne faisait pas appel, bien sûr. Mais je crois qu'il a fait appel. Voilà. Donc, exactement. Mais très, très bonne question. Très bonne question de Toweli qui est assez drôle et je pense que tu, en l'écrivant, tu sais que le potentiel comique de la question. Est-ce qu'il peut, il peut le gracier combien de fois? Parce que Nicolas Sarkozy n'en est pas à sa première condamnation et à d'autres procès, d'autres procédures judiciaires qui arrivent. Donc très bonne question qui est assez drôle. Combien de fois peut-il... Est-ce qu'il y a un cooldown? Très bonne question. Est-ce qu'il y a un cooldown pour la possibilité de gracier du président? Très bonne question. Je ne sais pas. Je me poserai la question si la question se pose. Merci beaucoup, Sansoué. Je suis habitué. T'inquiète, tout va bien. Bon, bah bon, on va y aller. Hein. Peut-être un cooldown, mais il y a un cheat code pour le standing de la prison. Alors, le standing de la prison, c'est le même pour tout le monde. C'est le prison de la santé, mais effectivement, il aura une cellule unique. Alors qu'à la prison de la santé, ils sont souvent deux ou trois par cellule. Donc c'est à ça que tu fais allusion sans doute. Ouais. Salut Lausanne, salut la Suisse. Bon, on va y aller, hein, c'est pas mal. En tout cas, j'ai l'impression que le sommaire vous inspire un petit peu. Ok. Alors, on passe au premier sujet. Mais qui a volé le Louvre? Voilà. Si le voleur est dans le chat, qu'il se dénonce, hein, on gagnera du temps. Comme ça, on pourra passer au sujet suivant. Allez, le sommaire. Et on est à 31 minutes de live. Voilà. On speedrun l'actu ce matin, c'est très bien, let's go. Ça y est, ça se dénonce? Ça commence à se dénoncer. Amis de la police, regardez mon chat, il y a plein de gens qui se dénoncent, n'hésitez pas à enquêter sur ces pseudos. c'est incroyable. Voilà. 32 minutes, ok, let's go. Ok, je rends les bijoux. Vous êtes exceptionnel. Alors, qui a volé les fameux bijoux là au Louvre? Alors, on s'est déjà pensé sur le sujet hier. Alors déjà, le Parisien est un peu en, comme d'autres médias, un peu en PLS, super grave, super triste. Après, c'est marrant, je ne vous lis pas tout le dossier du Parisien, mais il y a un article, ce qui est vachement intéressant, où vraiment le Parisien dit c'est gravissime, on nous a volé l'histoire de France, une catastrophe nationale, on va tous mourir. Hein. Et en même temps, le Parisien raconte que finalement, il y a très peu de visiteurs du Louvre qui vont dans cette galerie. Hein, ce n'est pas du tout les pièces qui sont le plus visitées par les touristes, par les amateurs d'art. Hein. Je sais parce que moi, j'ai streamé là-bas et clairement, ce n'est pas du tout la galerie d'Apollon, je crois. C'est pas du tout l'endroit le plus visité au Louvre. Donc c'est marrant, subitement c'est une catastrophe nationale, mais jusqu'ici, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à ces bijoux. Donc c'est le premier truc. Il y avait ça qui était drôle. Et puis on apprenait même que ces bijoux avaient été vendus par la République française, la Troisième République, qui cherchait de l'argent, avait vendu la plupart de ces bijoux à l'époque, hein, à des privés. Bon, bah à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux en même temps. Mais du coup, ça s'était fait sans trop de problèmes. Et après, la France, et notamment le Louvre, avait racheté ces bijoux. Donc, ces bijoux qui ont été volés, la France, à une époque, s'en est séparée, les a vendus pour de la thunasse. Voilà. Donc, alors, sans troller, c'est amusant de voir tous les gens aujourd'hui qui disent « Ah, mais c'est une catastrophe. On a volé l'histoire de France, ces bijoux si importants pour moi, pour le pays. Comment Alors je dis pas que c'est pas grave, hein, que c'est pas une catastrophe, mais disons que subitement il y a des gens qui subitement se découvrent une passion pour ces bijoux qui jusque-là n'intéressaient pas grand monde. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour la petite parenthèse un peu amusante. Et puis on a moi ce qui m'intéresse c'est l'enquête. C'est-à-dire, qui a pu voler ces bijoux? Pour qui, pour le compte de qui, voilà. Là, par exemple, on a une interview dans Le Parisien qui me semble assez intéressante d'un expert en bijoux et pierres précieuses qui s'appelle Ariel Altman, qui estime que les pièces volées au Louvre sont très difficilement écoulables. Voilà. Il est spécialiste des bijoux et pierres précieuses anciennes à Paris, donc Ariel Altman. Et pour lui, les auteurs du casse n'ont pas mesuré l'ampleur des pièces auxquelles ils s'attaquaient. Voilà. Je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, lui, il pense qu'ils ne se sont pas rendus compte. Bon. OK. Comment avez-vous réagi demande d'abord Le Parisien. Avec une vive émotion, dit-il, beaucoup de peine. Hein. Ces pièces sont exceptionnelles. Alors lui, je veux bien le croire, parce que lui, c'est un spécialiste du sujet, quand même. Hein. Il nous arrivait souvent d'aller au Louvre pour les contempler. Bon, bah lui, je le crois. Qu'est-ce qui fait leur beauté? Elles sont un témoignage de l'histoire de France, mais aussi du savoir-faire français à travers les époques. Bon, passionné de pierres et de bijoux, je peux comprendre que lui soit extrêmement ému. Sont-elles estimables? Non, on l'a déjà dit hier. Leur valeur est bien supérieure à celle intrinsèque des pierres et des métaux précieux qui les composent, par exemple le diadème en perles rarissime de l'impératrice Eugénie. Eugénie, c'est Napoléon, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que ces perles ont quand même une valeur? Peut-être doit-on parler dans ce cas précis de dizaines de millions d'euros si on veut vraiment donner une. Napoléon III, c'est ça? C'est Napoléon III? Merci beaucoup. Vous êtes fort, vous êtes fort. Voilà, dans les deux chats, je vois du Napoléon III, vous êtes formidable. Donc si on veut vraiment estimer ces perles, par exemple, c'est des dizaines de millions d'euros avec une forme, une taille quasi impossible à retrouver. Pour les diamants et l'or, là encore, impossible à dire si on veut faire estimer une valeur. Vous pouvez faire un calcul de base à partir d'un prix au carat, hein, l'unité de mesure des pierres précieuses, et les multiplier par le total des milliers de diamants dérobés, mais ça n'aurait pas de sens, parce qu'évidemment, leur valeur, elle est historique, et donc elle est inestimable. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'au-delà du fait que c'est en grande partie son histoire qui donne sa valeur à ce trésor, il me semble difficilement écoulable. C'est comme si les voleurs avaient dérobé Guernica, par exemple, le tableau de Picasso, quoi. Alors, Le Parisien dit, bah, impossible à écouler. Si, les bijoux pourraient être fondus, enfin, l'or pourrait être fondu, les pierres retaillées, c'est ce que je disais hier. Hein, tu prends un des gros diamants, hein, tu les retailles, t'en fais plusieurs pierres, bon, ben, c'est parti, quoi. Et alors, il répond, les bijoux, c'est ce qui m'inquiète le plus, je ne suis pas sûr qu'ils seront retrouvés, ils peuvent effectivement être fondus, hein, pour l'or, voilà. Et cette perte sera une catastrophe. Pour les pierres, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Je lui dis, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui, bizarrement. Oui, mais je préfère cette ambiance. Alors donc, pour l'or, il dit, ouais, ça peut bien être fondu, ouais. Pour les pierres, c'est plus compliqué, car une pierre, en admettant qu'elle soit retaillée, conserve son ADN, dit-il. Chaque pierre est unique, encore plus celles-ci qui proviennent, par exemple, de mines indiennes aujourd'hui fermées. Hein. Une pierre est traçable de par sa grandeur, son histoire, ses caractéristiques gémologiques. Ok. Comment cela peut-il aider à les retrouver? Donc, ces caractéristiques uniques d'une pierre. Merci, Poulpisson, tu régales. D'abord, parce qu'il existe aux États-Unis le GIA, le Gemological Institute of America, Institut de Gémologie d'Amérique. C'est le plus grand laboratoire au monde, ça je ne le connaissais pas, qui certifie les pierres précieuses. Il établit en quelque sorte leur pièce d'identité. Si une pierre volée passe entre ses mains, le FBI l'a saisie. On a vu à travers l'histoire des diamants comme ça voler, refaire surface des décennies plus tard. Ok. Si c'est si compliqué, quel était l'objectif des voleurs? Alors, en fait, donc, le monsieur, lui, il dit, c'est super compliqué d'écouler finalement ces diamants. L'or, easy, mais les diamants compliqués. En tout cas, c'est son analyse à lui. Alors, le Parisien dit, mais pourquoi, alors, pourquoi les avoir volés si c'est si compliqué? Eux seuls le savent, mais ma conviction, c'est qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur des pièces auxquelles ils se sont attaqués. Je crois qu'ils vont être vite dépassés par ces pièces iconiques. Bon, ça, c'est son analyse, son hypothèse. Après, vous êtes très nombreux dans le chat, et c'est très intéressant à évoquer la piste d'une commande, hein, d'un collectionneur. mal intentionné, qui voulait absolument avoir genre ses bijoux chez lui. Alors pas les montrer au grand public, tu m'étonnes, parce qu'il aurait pu être vite dénoncé, mais l'avoir chez lui quelque part, dans un coffre, voilà, dans une petite vitrine que seul lui peut regarder. Bon, c'est un peu un scénario de film, mais on en a parlé hier, donc pourquoi pas, quoi. Eh, en même temps, l'actualité est parfois tellement surprenante, hein. Je veux pas prendre des exemples récents, mais parfois on voit des choses qui popent dans l'actu, on se fait waouh! Hein, et puis ça, avec un feuilleton et chaque épisode est. Ah ouais, j'avais pas imaginé ça. Hein, vous voyez? Bon, bah là, c'est possible. Hein. Pourquoi se serait-il lancé dans une telle aventure? Difficile à dire, mais il est vrai que nos métiers sont sortis de la confidentialité dans laquelle ils sont longtemps restés. Aujourd'hui, ce type de bijoux s'affiche sur les réseaux sociaux. Avec parfois de la surenchère, ils font rêver. Le monsieur est quand même à deux doigts de dire que il y a des streamers qui ont fait des lives Twitch au Louvre, qui ont notamment montré ces bijoux. Voilà. Et peut-être que ça a donné des idées aux voleurs, quoi. Il a deux doigts de le faire. Hein. Il faudrait dénoncer d'ailleurs ces streamers. Je ne sais pas qui sont les streamers qui ont streamé au Louvre. Hein. Mais je pense que c'est, je pense qu'il faut, ces gens devraient être montrés du doigt. Hein. Cloués sur, au pilori, sur la place publique, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Peut-il s'agir d'un vol de commande de la part d'un collectionneur fortuné? Ah, c'est la piste qu'on évoquait à l'instant. Je n'y crois pas. Bon, les collectionneurs ont le culte de l'objet, mais là encore, ils sont passionnés par son histoire, ils respectent la pièce, surtout qu'ils souhaitent qu'elle rayonne, qu'elle soit admirée par le plus grand nombre. Merci notre bad viewer, merci Todrarig, merci Coben, vous êtes formidable, merci Guillaume, merci Top Minus, merci Nuno, j'ai remercié personne, je suis un monstre, merci Lectratovic, merci Rin, merci Ilan, merci Juju. Donc les collectionneurs souhaitent qu'elle soit admirée par le plus grand nombre, partager l'émotion qu'ils éprouvent, comment oublier un tel trésor dans un coffre? Sa raison d'être, c'est de continuer à vivre. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Mon hypothèse, moi? Vous voulez que je vous dise? Bah, j'en sais rien. Bah. J'ai aucune idée. Bon, peut-être, j'espère que l'enquête va nous donner des pistes, quoi. Vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi, vous? Ça me touche pas beaucoup comme sujet, pour être honnête. Ça, Audely, je le comprends. C'est un coup d'arnaque à l'assurance. Je suis pas sûr que les bijoux étaient assurés, par contre. Comme la valeur est inestimable, alors je n'ai pas vu de papier là-dessus, mais moi je pars sur le principe que ces bijoux n'étaient pas assurés, en fait. Parce qu'en fait, la valeur, elle est gigantesque, je suis pas sûr. Hein. Un gars voulait impressionner sa copine. Tiens, je t'ai ramené une couronne. Comme tu es ma reine, je t'offre une couronne. Pas mal, ça. J'aime. Mon Ryan, t'as deux lives à voir si tu veux. Je vais pas y passer ma vie, moi. Hein. C'est pas ma vie, moi. Hein. Je me suis suffisamment impliqué dans cette histoire. Ryan, l'histoire à laquelle tu fais allusion, il y a déjà, j'ai consacré deux lives déjà. Donc n'hésite pas, c'est dans mes replays, c'est gratuit sur Twitch, sur YouTube. Voilà. Je vais pas y passer ma vie, par contre, hein, puisque ce n'est pas la mienne. Et voilà. Donc si tu veux faire cet effort de replay, tu auras toutes les réponses à tes questions. Et si tu veux passer ta vie, toi, à débattre de cette histoire-là, libre à toi, mais moi j'ai d'autres trucs à faire, par contre. Commandité pour une revente sur le marché noir, me dit Modem. C'est pour la dette de la France, me dit le Kitres. Un coup de fantomas, me dit Luche. Oui, c'est bien connu, les collectionneurs sont pas du tout égocentriques, rigole Poum. Peut-être un coup de com' pour la série Lupin. J'aime bien. Comment ça, Rachida Hati est quand même rapidement sur les lieux. Ça va pas, non? La ministre de la Culture, vous êtes fous, quoi. Ou alors, ça va se retrouver sur Vinted, comme le dit Max. Ouais.
C'est intéressant. Moi, je suis persuadé que c'est par appât du gain et que les voleurs n'avaient pas conscience de la valeur du truc, me dit Gibou Gibou. Moi, j'aimerais beaucoup me projeter dans le futur et avec les résultats de l'enquête et voir si les mecs sont des pieds nickelés, des gars, des petits casseurs qui se sont dit on va voler des bijoux et on verra bien ce que ça vaut, ou une équipe hyper pro, actionnée par un commanditaire, avec des mecs qui savaient exactement où les bijoux allaient partir après. Voilà. Bon, mais ça, je n'ai pas l'info. Ok. J'ai un autre papier là-dessus, dans le Parisien toujours, que je trouve intéressant, sur le fait que c'est impossible à revendre, quoi. Alors quelqu'un me disait dans le chat à l'instant du côté de TikTok, je crois que les diamantaires concernés, ils sont en Belgique. Ben oui, manifestement, tu as raison. Moi aussi, j'aime Casablanca User. Impossible à revendre sont les diamantaires d'Anvers. Cigarette au coin de la bouche, Ben. Il s'appelle Ben. Hoche la tête sans dire un mot, c'est une folie, je comprends toujours pas comment c'est possible, dit le trentenaire adossé devant sa bijouterie, donc à Anvers, en Belgique. Ah, on dit Anvers ? Je me posais la question. J'ai failli poser la question, mais j'avais un peu honte. On dit Anvers ? Ah, merci. Merde. Je m'excuse auprès de tous les Belges. On dit Anvers. Vous, tout le monde savait qu'on disait Anvers ? Je suis nul. Vous saviez tous ? C'est mieux de dire Anvers ? Pourtant, tu as fait le Grand Cactus. Oui, mais le Grand Cactus, c'est pas Anvers. C'est à Liège. Donc ça n'a rien à voir. Désolé. Merci, Juspine. C'est comme le X de Bruxelles. Ah, ça, je sais, on dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. Et on dit pas Bourg-en-Bresse, on dit Bourg-en-Bresse, avec un K. Ok. Donc Anvers. Donc là, on est dans une bijouterie d'Anvers. Voilà. Voilà, et il témoigne un petit peu, moi je ne rachète rien en particulier, je me fournis auprès de diamantaires, je revends aux clients. Mais il dit, même une petite main comme moi, c'est une petite bijouterie, saurait reconnaître les pierres volées au Louvre tellement c'est différent de ce qu'on voit circuler d'habitude. Ça ne peut pas finir ici, c'est trop gros pour nous, dit-il. Le quartier d'affaires des diamantaires se trouve à quelques dizaines de mètres de la boutique de Ben. Voilà. Là, on a des entrées de bureaux ultra sécurisées, des dizaines de caméras de surveillance. C'est le triangle d'or du diamant. Voilà. Voilà, donc là, le journaliste du Parisien essaie de rencontrer des diamantaires. Manifestement, c'est assez difficile. À l'accueil, on explique qu'ils sont assez occupés. Mais il y a Archa, qui est diamantaire depuis 46 ans, qui accepte. Voilà. Alors, agent de sécurité, interphone, vidéosurveillance, deux portes en acier. Voilà. Petite table en bois. Là, il y a 250 000 euros. Merci, Sugar. De diamants sur la petite table. C'est strictement impossible que le butin du Louvre finisse par transiter par Anvers, dit cet homme d'affaires. Tout le monde sait qu'on dit Anvers. Hein. Il y a des gens. Je vais vous surprendre. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on dit Anvers, que le S de la ville se prononce. Il y a des gens qui disent Anvers. Il y a des gens en France qui disent Anvers. Pardon, mais c'est intolérable. C'est intolérable. C'est fou. Oui, il est nulos. C'est incroyable. Oui, je crois qu'il y a des gens qui disent Anvers. Vous savez quoi ? Ça me débecte. Ça me débecte. Donc, c'est strictement impossible que le butin du Louvre finisse par transiter par Anvers, tranche l'homme d'affaires qui dit connaître le business comme sa poche. Dans les circuits officiels, tout est contrôlé de A à Z. Les diamants passent par les douanes. On a des certificats, c'est authentifié par un expert. Voilà. Même les artisans chargés de tailler les pièces sont identifiés, minutieusement tracés. Les pièces volées sont tellement rares que n'importe qui comprendra en un coup d'œil d'où ça vient. Il faudrait être fou pour se mêler à ça, dit-il. C'est invendable derrière, hormis chez un collectionneur un peu taré. Bon, le monsieur, il dit quand même que dans le circuit officiel, c'est impossible. Hein, que les artisans sont tracés. Oui, mais bon, ça, c'est dans le circuit officiel. Par définition, je ne suis pas sûr que les bandits qui ont fait le coup là s'inscrivent dans un circuit très officiel, quoi. Hein. Mais bon, peut-être que c'est lui qui a raison. Depuis quelques années, les diamantaires d'Anvers, hein, parce qu'il y a des gens qui... Bon, enfin bref. Subissent une double peine, émergence d'un trafic de drogue de plus en plus important qui ternit l'image de la ville, effrayant de potentiels vendeurs. Depuis 2022, on ne peut plus faire de business avec les pierres russes. À cause des sanctions de l'UE. Ajoutant Archa en faisant la moue. Hein, il n'est pas content, Archa, parce qu'on ne peut plus faire du business avec les Russes. Alors, il cherchera à être exemplaire. Si on apprend qu'un diamantaire d'ici s'est mêlé à ce braquage qui a fait le tour du monde, on les charcute et on demande à l'État de charcuter ensuite, jure Archa dans un français presque parfait. Ils sont colères. La daronne à Lucas, tu peux arrêter de spammer puisque j'ai déjà fait un live là-dessus. Tu peux regarder le live plutôt. Hein? Le petit syndrome du personnage principal. Archa, c'est un bijoutier d'Anvers. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Évidemment, ça part dans l'Est. Steam Gamet, c'est trop gros, ils sont pas fous les types. Il y a quelques mois, c'était les pépites d'or du musée d'histoire naturelle. C'est vrai. Et toi, l'avais déjà fait d'ailleurs peu avant un live d'ailleurs dans ce muséum d'histoire naturelle. Ouais. Salut Taylor, bienvenue. Et alors, il y a un papier sur la sécurité, parce que moi, je m'intéresse sur qu'est-ce que vont devenir ces bijoux, qui sont ces voleurs, mais il y a un gros débat sur la sécurité du Louvre qu'on a commencé à évoquer hier. Et il y a un papier, là, branle-bas de combat pour la sécurité. Hein. Après le cas spectaculaire, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce lundi que des instructions allaient être envoyées à tous les préfets pour renforcer les dispositifs autour des établissements culturels, notamment les musées, puisqu'on constate qu'il y a une grande vulnérabilité des musées, en fait. Voilà. Une enquête administrative a été lancée hein, pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà, Rachida Dati n'a toutefois pas attendu pour déplorer 40 ans d'abandon où on a mis la poussière sous le tapis. Voilà, il faut rattraper tout ce retard, dit Madame Dati, qui manifestement vient d'être nommée au ministère de la Culture. Hein, puisqu'elle dit que ça dure depuis très très longtemps. Je pense qu'elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, je pense, Rachida Dati. Il y a quelques jours, non? 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 Non, Hugo répond oui. Non, c'était une vanne. Elle est ministre de la Culture depuis super longtemps, en fait. C'est pour ça que c'était une petite vanne. C'est une petite vanne. Non, ça fait genre 3 ans qu'elle est ministre de la Culture. C'était une vanne, Hugo. Ah, toi aussi, c'était pour la vanne, excuse-moi. Bien joué. Je me suis fait avoir par la vanne d'Hugo, par contre. Je me suis bien fait avoir, là. Voilà. Donc voilà, donc elle dit waouh, c'est vraiment. Il serait temps de faire quelque chose, hein. Déclaration qui résonne avec les revendications des syndicats de musées qui ont déjà alerté sur le sujet depuis longtemps. On a essayé de le dire sur tous les tons, mais on n'a pas été écouté. Regrette une agente de surveillance au Louvre. Voilà. Le 16 juin, ses collègues de la sécurité au Louvre avaient d'ailleurs débrayé pour dénoncer la baisse constante de moyens humains au Louvre. Un pré-rapport de la Cour des comptes va dans le même sens du fait du report persistant du schéma directeur de modernisation des équipements de sûreté au Louvre. Le déploiement de la vidéosurveillance dans le musée est à la traîne. Voilà. Si les alarmes ont bien fonctionné dimanche, parce que les alarmes ont sonné quand même, hein, les malfaiteurs ont toutefois réussi à s'emparer du butin en un temps record 7 minutes. Et seulement 3 minutes 59 secondes passées à l'intérieur du musée. Ça a été très rapide. Les vitres équipées d'un verre haute sécurité aux normes n'ont pas résisté à l'attaque d'une disqueuse, ce qui doit interroger, disent les spécialistes de sécurité. Le Louvre est ainsi bien démuni pour faire face aux nouveaux opérateurs de cette criminalité pratiquant le smash and grab. Hein, comprenez, opération attaque éclair qui en plein jour dure toujours moins de 9 minutes. Je comprends ce que dit Valentin. Valentin dit « Salut Samuel, désolé, mais j'ai beaucoup de mal à me dire que ce soit une priorité s'il y a de l'argent dans les services publics, autant qu'il aille dans la santé plus l'éducation. » Hier, on s'est posé cette question, on pourrait refaire le débat, mais hier, il y avait un peu des gens qui, en mode Yaka Faucon qui disaient bah, « Il faut mettre plus de sécurité, c'est honteux. Qu'est-ce qu'on attend pour... » Notamment, certains disaient « C'est pas normal que la vitre puisse être cassée aussi vite. » Et avant, j'ai posé la question « Vous avez vu le nombre de vitres au Louvre ?» Quelqu'un disait « Mais il faudrait mettre des vitres blindées. » Bon, je sais pas si c'est possible, d'ailleurs, par rapport à un... au bâtiment de France, au monument de France, etc. Là. Mais si on met ça de côté, vous avez vu le nombre de vitres au Louvre, hein. Moi, je pense qu'on peut trouver une société qui propose de faire un devis pour passer toutes les vitres du Louvre en blindé, quoi. Je pense qu'il y a une entreprise qui serait très contente de faire ça. Mais t'imagines la taille du devis, quoi. Et bon, ben... tu vois... Non, mais on parle des vitres, les gars. Les vitres, des fenêtres, hein. Bah, au moins c'est en extérieur. Bah, oui, une vitre, souvent, c'est plutôt vers l'extérieur, oui. Donc c'est ça le sujet aussi. Il n'y a qu'à Faucon, mais est-ce qu'on veut dépenser cet argent? C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Voilà. La facilité avec laquelle les voleurs ont pu garer un engin de chantier sur le trottoir dénué de la moindre protection. C'est vrai, sur le trottoir, il n'y avait pas de plot, il n'y avait pas d'alarme, il n'y avait pas de caméra sensitive, etc. Pose question. La règle de toute protection d'un espace consiste à empêcher, sinon ralentir l'intrusion pour rendre l'opération si compliquée qu'elle n'en vaut plus la peine, explique un spécialiste de sécurité, rappelant que la galerie avait déjà été victime en 1976 du vol de l'épée de Charles X qui n'a jamais été retrouvée. Il y a J'ai pas de pseudo qui me dit que Sarkozy vient de s'échapper de la prison de la santé, apparemment Carla aurait loué un camion élévateur. Je pense que cette information est fausse, mais la vanne est rigolote. Voilà. Imaginez, c'est pas une blague, c'est une vraie info. Merci Fauve-touille pour ton message et pour ton sub à l'instant. J'ai vu les deux. Oui, voilà, si ton opération de vol prend 20 minutes au lieu de 7 minutes, c'est plus la même chose, exactement. Oui, bien, c'est ce que disent les spécialistes de sécurité, quoi. Je vous lis un petit peu, puis on enchaîne, hein. Hugo, tu me déranges pas, j'ai déjà fait deux lives sur le sujet, tu peux les avoir en replay si tu veux. Hier soir, attends, c'était quand? Non, hier soir, hier matin beaucoup, et samedi soir. Mais tu me déranges pas, quand la question est poliment posée, il n'y a aucun souci. Comment ils ont fait pour faire tomber la couronne, c'est vraiment naze. Effectivement, dans leur fuite, les malfaiteurs ont laissé tomber la couronne, là. Alors, est-ce qu'ils s'en sont débarrassés, est-ce qu'ils l'ont laissé tomber? Manifestement, ils étaient un petit peu pressés, parce qu'ils étaient quand même plus ou moins poursuivis par les agents de sécurité. Ils n'ont pas réussi à mettre le feu à l'engin avec la nacelle, là, déjà. Et a priori, ils ont laissé tomber la couronne, ouais. Désolé, je viens d'arriver. Est-ce qu'il y a des pistes sur les voleurs ou pas encore? Officiellement, il n'y en a pas, non. Après, si les enquêteurs ont une piste, ils vont pas dire aux médias, hein, s'ils font bien leur boulot. Alors, ma jupe haut de gars, ton message a été supprimé parce que les modérateurs sont un peu fatigués qu'on parle de ça, mais ce que tu dis est intéressant, sauf que sur le point que tu évoques, parle bien de tout, sauf des ce que tu dis là, c'est faux, réécoute bien. Le principal intéressé reconnaît au moins deux actes à minima, et c'est bien tout le projet, tout le sujet intéressant. Bon, eh ben, moi je croise les doigts pour qu'on en sache un peu plus dans les prochains jours. Hein, ce serait formidable de savoir ce qui s'est passé, qui sont ces gens. Et puis effectivement, même si je me dis, mais quel est le prix d'une sécurisation high-tech à 2000% du Louvre, c'est vrai que ce serait quand même bien de protéger ces biens culturels inestimables. Hmm. Du coup, il n'y a eu aucun témoin dans les visiteurs, bien sûr, mais tout le monde est témoin, mais les mecs avaient des cagoules, quoi. Il y avait des gens dans la galerie, hein. Il y avait des agents de sécurité, il y avait du public. Mais les agents de sécurité ont fait la bonne chose. D'ailleurs, ils ont mis en sécurité les touristes, les visiteurs. Mais les gars avaient des cagoules, quoi. Ça pourrait être moi, hein. Ça pourrait être moi. Ils étaient armés, pas très clair.
Un papier hier disait qu'ils ont laissé entendre aux gardiens qu'ils étaient armés. Mais je ne l'ai pas vu écrit qu'on a vu une arme dans leurs mains. J'essaie d'être précis, quoi. Ouais. Il était à peu près 10h, Fluffy, 10h, 10h30. Alors, complote, non, je trouve que les médias français s'intéressent pas assez à l'actualité chez nos voisins européens. Tu vois, je trouve qu'il n'y a pas assez de papier sur ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Allemagne, enfin un petit peu plus l'Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Mais voilà, j'essaie de temps en temps de lire ces papiers, mais il n'y a pas tant que ça en vrai. Ouais. Merci Pichou. Merci DLG Z Pro. Merci NG Food. Merci Tiki. Merci Old Linux. Merci Antoine. Salut Samuel. Qu'est-ce que tu me dis? C'est intéressant. Est-ce que tu regardes télé matin? Est-ce que tu t'en inspires, mon Disqual? Je ne regarde pas la télévision. J'ai pas le temps. Je ne regarde jamais la télé. Je n'ai pas regardé la télé depuis très longtemps. Si, la dernière fois, je crois que c'était pour la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. 24? Je regarde pas la télé, moi. Je regarde Twitch. Et YouTube. Et TikTok. Et Insta. Et les journaux de presse écrite. Et puis, non, je regarde pas trop le football non plus. Je suis nul en foot. Allez, on enchaîne? La fameuse cérémonie. Ouais, M-Star, moi j'ai beaucoup aimé. Mais, vu tes points de suspension, je pense que toi non. Eh ben, c'est formidable. Allez, Sarkozy en prison. Let's go! 1 heure, tout pile. Ok. Alors, ça, c'est. On parlait de bijoux de historique, là. Bah, ça, c'est historique, ça. Ça n'est jamais arrivé. Un ancien président de la 5e République, donc qui est en prison depuis ce matin, ça n'est jamais arrivé. Jamais, 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 jamais. Alors déjà, condamné à la prison ferme, jamais. Ça, c'est la première fois. Chirac avait du sursis, je crois. Dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, je crois. Mais prison ferme, jamais avant lui. Et prison, encore moins. Voilà. Donc, le Parisien parlait ce matin de ses dernières heures de liberté avant la santé. Alors le titre est un peu daté, il y avait Pétain quand même. Alors dans la phrase ancien président de la 5e République, quel est le mot qui vous échappe? 5e République? 1958? Pétain? Tout c'est bon? Tout le monde est OK? Oui, les mots sont hyper importants en matière d'actualité et d'histoire. Alors dernières heures de liberté avant la santé, le titre du Parisien il est daté puisque vous m'avez expliqué tout à l'heure que vers 9h, 10h ce matin. L'ancien président Nicolas Sarkozy avait été incarcéré. Condamné, je vous le rappelle, à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy est attendu à la prison ce mardi. Bon, bah ça, c'est fait. Récit de ces derniers jours avant incarcération. Lisons l'article du Parisien qui nous donne les infos, puis après, on verra deux regards très différents. Libération qui s'en félicite plutôt, le Figaro qui trouve que c'est une très mauvaise idée d'avoir incarcéré. L'ancien président, quoi. Lisons le papier du Parisien, peut-être, pour commencer. Ce mardi, 9h30, Nicolas Sarkozy était attendu à la prison de la Santé, un lieu qu'il ne connaît que trop bien, lui qui a été ministre de l'Intérieur. Ah ouais. Il sait d'avance ce bruit particulier qui ne cesse pas la nuit, ses détenus au courant déjà qu'il arrive, et qui guette l'image de l'ancien chef de l'État passé de l'autre côté des barreaux. Oui, c'est un ancien ministre de l'Intérieur aussi qui se retrouve en prison. Merci Rolicad. Merci Rolicad, c'est gentil. Maître Shaolin, on a déjà parlé de la mort un peu étrange du principal témoin dans l'affaire Sarkozy. Moi, j'en ai déjà parlé ici. Donc, mais tu avais raté ce live. Toi, du coup, tu peux arrêter de spammer. Après, tu n'es pas obligé de regarder tous mes lives aussi. Hein, je peux comprendre. Hein. Mais du coup, on en a déjà parlé ici. T'inquiète. condamné le 25 septembre à 5 ans de prison. Pourquoi ? Pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement de sa campagne électorale de 2007, si je ne dis pas de bêtises, venant de la Libye. On a passé un petit peu de temps sur tout ça. Mais présumé innocent, puisqu'il a depuis fait appel, dit le Parisien. Ses proches et ceux qui l'ont croisé racontent un homme attaché ces derniers jours à ne rien changer à son habituel quotidien. C'est quoi le quotidien de Nicolas Sarkozy? Du sport avant de se rendre à son bureau de la rue de Miromesnil dans le 8e, rentrer chez lui, recevoir la visite impromptue, c'était pas prévu, d'Edouard Balladur, hein. La semaine dernière, il recevait des politiques à son bureau. On n'a pas parlé de sa condamnation que de politique nationale, raconte un de ses invités. Voilà. Ces derniers jours, des gens très différents lui ont exprimé leur soutien. Comme la mère d'une ex-otage du Hamas, la française, la franco-israélienne Mia Hashem, quand lui a pris le temps de remercier ceux qui l'avaient soutenu, dont Marine Le Pen, qui a soutenu Nicolas Sarkozy. Beaucoup de temps avec ses proches aussi, un dîner dans une brasserie du 16e arrondissement, samedi soir, à l'anniversaire des 14 ans de sa dernière fille, qui s'appelle Julia. On serait trop gentil de brocoline, avec ses Samuel Président, là. Hier, on a fait un sondage là-dessus, sur l'appli Politesse, là. Voilà. Et je suis allé voir. Et je suis allé voir les résultats de ce sondage. Est-ce qu'il serait une bonne idée que Samuel Etienne se présente à la présidentielle? Alors, le sondage a été lancé par nous, hein. Donc, t'imagines qu'il est totalement sous influence. Et oui, on est sur du 70-80% de gens qui sont OK. Sachant que beaucoup de ces gens qui ont voté sont des gens qui venaient du live, quoi. Voilà. Donc, Broco, merci pour ce très joli raid ce matin. Donc, anniversaire de sa fille Julia. Le couple Sarkozy redoutait que l'incarcération arrive un peu plus tôt, mais les magistrats auraient été sensibles au fait qu'il puisse être présent pour ce moment. Il aurait pu être incarcéré plus tôt, mais a priori, il l'aurait laissé célébrer l'anniversaire de sa fille. Avant son incarcération, les proches de l'ancien locataire de la place Beauvau, donc ancien ministre de l'Intérieur, ont eu aussi une crainte que les moyens mis en place pour assurer sa sécurité dans l'enceinte carcérale ne suffisent pas. On est très inquiets, vraiment très inquiets, car à l'intérieur, tout peut arriver. Hein, c'est un ancien président, qui sait ce qu'il peut se passer s'il croise un autre détenu. Bon, en vrai, qu'on se soucie de la sécurité de Nicolas Sarkozy, qui est quand même pas un détenu comme les autres, au sein d'un établissement où il peut y avoir des gens qui peuvent avoir été condamnés pour des choses très, très graves, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Même si placé à l'isolement, il devrait être tout le temps seul, puisqu'a priori, il a une cellule pour lui tout seul, quoi. Après sa condamnation, Nicolas Sarkozy avait eu... Je vous lis. Ouais. Pourquoi on devrait se soucier de plus de Sarkozy que d'un détenu lambda, son ancien statut ? Son statut d'ancien président ne devrait pas être pris en compte. Je comprends ce que tu dis, Graloc. La logique, en fait, du système pénitentiaire, enfin, de l'administration pénitentiaire et de la justice ici... C'est qu'en fait, son statut particulier pourrait, comment dire, attirer l'attention d'autres détenus. Rappelons que cet ancien président est aussi ancien ministre de l'Intérieur, ancien patron quelque part de la police. La crainte, c'est qu'à un moment, il croise un détenu qui a un rapport particulier avec l'autorité, avec la police, et qui se dise, tiens, je vais taper Sarkozy. Voilà. Or, la prison, la sanction de la prison, c'est une privation de liberté. Là, on fait un petit pas de côté sur ce qu'est la prison. La sanction que décide la société et la justice en condamnant quelqu'un qui a violé une loi, qui n'a pas respecté une loi, c'est la privation de la liberté. La prison, c'est ça. La prison, c'est pas de dormir à 15 dans une cellule. C'est pas de pas pouvoir se laver, c'est pas pouvoir accéder à un minimum de soins en termes de santé. La prison, c'est la privation de la liberté. La prison, c'est pas forcément créer les conditions pour qu'un mec se fasse agresser par d'autres détenus, par exemple. C'est pas ça, la prison. Non. La prison, c'est la privation de la liberté. Alors le problème, c'est que les conditions de détention en France, elles sont dénoncées par des associations parce que, notamment, il y a surpopulation carcérale. Et que à la prison de la santé, normalement, c'est un détenu par cellule. Et en fait, on est plutôt sur du 2 ou 3 actuellement. Voilà. Donc, vous avez raison, c'est une forme de privilège. mais c'est un privilège qui est décidé par l'administration pénitentiaire, qui craint peut-être, si jamais Sarkozy se faisait agresser, je vais au bout de l'histoire, par un autre détenu, les mêmes ici qui crient diraient « Ah ben c'est incroyable, on ne sait pas protéger les détenus ». Ce serait les mêmes d'ailleurs qui crieraient. Hein. Donc c'est un peu cette idée-là. Quoi. D'ailleurs, je crois que l'administration pénitentiaire avait demandé à Sarkozy de faire la demande d'une cellule individuelle pour que ce soit sa responsabilité, qu'elle puisse dire « Vous voyez, c'est l'ancien président qui a demandé une cellule individuelle » et Sarkozy aurait refusé en disant « C'est votre responsabilité ». Voilà. C'est votre responsabilité. Si vous voulez choisir une cellule individuelle pour être éventuellement protégé d'autres détenus, eh ben c'est votre problème. Vous voyez ? C'est un peu le sujet, quoi. Donc ça n'est pas sa décision, ça n'est pas sa demande. Ouais. Bon, après, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. J'entends le côté privilège, alors que les autres détenus, la plupart des autres détenus, eux, sont à 2 à 3 prisons avec parfois un matelas par terre, quoi. Je défends pas Sarkozy, là. J'essaie de vous expliquer un peu le contexte de la décision, quoi. Ouais. Après sa condamnation, Nicolas Sarkozy avait eu une stratégie très offensive pour dénoncer un complot chargé violemment l'institution judiciaire. Ce week-end, celui dont les proches ne cessent de marteler qu'il est combatif a conservé cette même ligne de défense avec des confidences distillées dans la presse à quelques heures de son emprisonnement. Il a donné des interviews juste avant d'être emprisonné. Manière surtout de ne pas donner l'impression qu'il est atteint, voire de prétendre le contraire. Je n'ai pas peur de la prison, je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé, avait-il déclaré dans une interview ce week-end. Merci Fan Ferrari, merci Hokkaido, merci beaucoup, merci Juju French, merci Anne, merci Jules. Qu'est-ce que je voulais encore dans cet article ? Alors, combien de temps ? Moi, je vous disais tout à l'heure, certains disent autour de 3 semaines, durée minimum avant qu'il puisse demander à être libéré. Nicolas Sarkozy ne sait pas encore combien de temps il restera en détention. Quelques semaines, quelques mois, point d'interrogation. Sur le papier, elle pourrait durer jusqu'à son procès en appel courant 2026. Mais dès ce mardi, ses avocats vont déposer une demande de liberté conditionnelle. Ses proches espèrent une incarcération assez courte avec une sortie idéalement avant Noël. Oui, 3 semaines d'après les papiers que j'ai lus la semaine dernière, c'est vraiment le délai incompressible. En fait, c'est le délai d'examen de cette demande de liberté conditionnelle. C'est pour ça qu'on parlerait d'un minimum de 3 semaines. Hein, liberté conditionnelle. Ses fils, eux, ont appelé un rassemblement près de son domicile ce matin pour accompagner son départ à la santé et surtout pour montrer qu'il demeure soutenu malgré la condamnation. Avec quel succès ? Il faut prendre à témoin l'opinion, confie un intime de Sarkozy. Voilà. J'enchaîne avec Libé et Le Figaro sur le même sujet, mais je vous lis un petit peu d'abord. Merci Buzzmoker, merci beaucoup. Odinox dit « Je ne pensais pas qu'autant de gens seraient pris de sympathie pour Sarkozy. Bon, » il y a les deux dans le chat. Hein. Il y a des gens qui voudraient que Sarkozy soit traité comme tous les autres détenus, puis d'autres qui, au contraire, estiment, comme Sarkozy lui-même d'ailleurs, qu'il n'aurait pas dû être condamné. Je vois les deux dans le chat, c'est intéressant. Je vous lis. Sansoué dit, si privilège il y a, ce n'est pas l'isolement et le fait qu'il ait le droit à un téléphone fixe, certes à carte, donc très cher, dans sa cellule, contrairement aux autres. Si je suis d'accord avec la mesure d'isolement, je ne vois pas pourquoi il pourrait garder un lien avec ses proches, contrairement aux autres détenus. Il y a un article là-dessus ce matin qui dit que la plupart des cellules de la prison de la santé qui a été rénovée il n'y a pas longtemps, la plupart de ces cellules ont un téléphone fixe. Mais très peu utilisé par les détenus parce que ça coûte une blinde. Ça coûte très très cher. Voilà, Star Zerski nous confirme cette information. Quasiment tous les détenus ont un téléphone cabine, mais peu utilisé parce qu'il coûte très très cher. un téléphone cabine qui n'a accès qu'à quelques numéros de téléphone qui sont des numéros de proches. Voilà. Donc là, ici, là, comment dire, le privilège, c'est d'avoir de l'argent et de pouvoir payer cette note. C'est genre, j'ai lu 110 euros par mois pour 20 minutes de téléphone. Voilà, numéro autorisé par le juge, exactement. Il aurait juste à écrire un nouveau livre, rigole Sugar. Sugar ne rigole pas, c'est le projet, je vous ai pas lu le passage, mais Nicolas Sarkozy a prévu d'écrire un livre en prison. Il y a même un monde où à un moment, la justice veut le libérer et il dit non, j'ai pas fini mon bouquin. Hein. Donc c'est peut-être lui qui va demander à rester. Non, il a prévu d'écrire un livre. Non, moi j'ai pas fini moi. Là, je suis à l'intro. Non, mais vous riez, pourquoi pas, hein? T'es pas trop dérangé, quoi, je veux dire. T'as pas beaucoup de sollicitations. C'est un temps d'écriture, quoi. Bon, alors attendez, j'ai deux gros dossiers à vous lire. Je vais essayer d'être rapide parce que là, on a eu les infos essentielles par Le Parisien, mais il y a un gros dossier dans Libé. À l'ombre. Sarkozy, donc c'est la une de Libé qui estime que c'est une des infos les plus importantes. Ah, je vais essayer de vous lire l'article en diagonale, essayer de vous donner l'essentiel des infos, quoi. Je vous lis pas les infos que j'ai déjà lues, bien sûr. Merci Fabrice 36D pour ton analyse, tu vois. Ce qui est bien dans mon chat, c'est que tu peux même l'exprimer et ça passe, il n'y a aucun problème. Tu vois. Mais profite du coup. Je peux même tu peux même enchaîner, faire ton petit éditorial, je te lirai avec plaisir. Waouh! Alors ça, moi j'apprends par exemple que vendredi, Sarkozy a été reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Ça, je ne le savais pas. Une visite qui n'apparaissait pas à l'agenda officiel du chef de l'État, dont la teneur était restée secrète. Mais il était normal que sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte, a expliqué Macron lundi. Ah, ça, je ne savais pas. Ok. Le ministre Gérald Darmanin doit passer aussi en tant que visiteur bientôt. Voilà. Il dit Darmanin, j'ai beaucoup de tristesse pour le président Sarkozy. Voilà. L'homme que je suis, j'ai été son collaborateur, ne peut pas être insensible à la détresse d'un homme, dit-il. Alors, nul ne sait vraiment où sera placé Sarkozy à la santé. Écrit Libé, il pourrait être détenu dans le quartier dit des personnes vulnérables, dit quartier VIP. Seul dans une cellule de 9 mètres carrés avec douche, sanitaire, bureau, plaque chauffante, téléphone, le fameux téléphone fixe, frigo et télévision en location. Dans la journée, les portes peuvent être ouvertes. Ces déplacements devraient être calculés pour éviter tout contact avec d'autres détenus d'autres secteurs. Voilà. Sont déjà passés dans ces cellules, donc pour vulnérables VIP, Jean-Luc Lahaye, Sami Nasseri, Claude Guéant, Patrick Balkany. Tout est compliqué en prison, déplorait ce dernier dans Marianne. Patrick Bakken connaît bien la prison. Hein, il faut prendre cela comme une expérience, même si je trouve cela honteux de mettre un ancien président en prison. Alors, ça, c'est donc ces cellules dites VIP, mais il y a aussi une autre solution qui est l'isolement. Du côté de TF1 et BFM, on penchait plutôt pour cette solution. L'ancien président de 70 ans logerait alors dans le même type de cellule qu'un quartier VIP, mais qui cette fois resterait fermé, la porte fermée. Il aurait le droit à 3 parloirs d'une demi-heure par semaine, donc avec sa famille, quoi. Effectuerait ses 2 promenades quotidiennes seul, dans une petite cour entièrement murée, au bout d'un couloir, sous un ciel grillagé. Voilà. Faisons juste attention au camion avec nacelle. Surtout.
La prison de la santé qui a beaucoup changé ces dernières années. Totalement vétuste, elle a été réhabilitée en 2019 après 4 ans de travaux, 200 millions d'euros, essentiellement réalisés par Vinci. Voilà. Entre ces murs rénovés, une cellule sur 3 a été supprimée pour donner plus de place aux détenus. Avant, la cellule, c'était 6 mètres carrés, donc il semblerait que ce soit 9 maintenant. Un gymnase a été construit en sous-sol, les cours de promenade ont été végétalisés. Voilà. Toutefois, lors d'une visite de l'établissement pénitentiaire début septembre, Isabelle Gomez, la directrice adjointe, donnait ce chiffre à Libération, 707 places, dont une cinquantaine réservées aux détenus uniques, radicalisés, quartier disciplinaire, isolement, pour 1230 détenus. 707 places pour 1230 détenus. Donc les 9 mètres carrés par prisonnier, c'est virtuel. Hein, puisqu'en fait, ils sont souvent 2 à 3 par cellule. Certains disent, je comprends, hein, c'est plus grand que ma chambre de Crous, sauf que là, ils sont souvent 2 ou 3. Un taux d'occupation de 188%. La santé qui s'est à sa réouverture, si vous voulez, une prison modèle avec pour norme une cellule indétenue. Merci Barbie Doulea. Merci Tank. Merci Buzzmoker. Avec norme une cellule indétenue, dévisse inexorablement. Les cellules accueillent 2 voire 3 prisonniers avec un matelas posé par terre. Cette promiscuité alerte notamment le personnel soignant. On ne parle plus de Sarkozy, là, on parle des détenus, hein. Les autres. Les violences de plus en plus nombreuses entre les détenus, mais aussi concernant les extractions pour les personnes nécessitant des soins, la moitié ne pouvant se réaliser faute d'escorte. 6 mois après sa réhabilitation, le tableau est aussi sombre que la muraille. La santé, c'est un peu l'enfer, mais pas totalement, disent les médecins. En fait, là, le papier dit que dans les autres prisons françaises, la situation est beaucoup plus grave, quoi. Absence de douche en cellule, prolifération des nuisibles à travers les prisons. Voilà. En fait, le dossier de Libé est assez descriptif, finalement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas tellement de... Comme je disais, Libération semble se féliciter de l'incarcération de Sarkozy. Pas tant que ça, en tout cas pas dans ce papier. Hein, pas dans ce papier, c'est très factuel. Mais il y a quand même un papier sur le fait qu'il n'est pas au bout de ses peines. Hein, qu'il y a peut-être d'autres condamnations qui arrivent. Un détenu peut-être pas au bout de ses peines, c'est cet article page 3 dans Libé. L'ancien président n'en a pas fini avec la justice, qui se penchera à nouveau sur l'affaire Big Malion en novembre, puis sur le dossier libyen, probablement dès 2026. Alors, le calendrier judiciaire de M. Sarkozy. Le 26 novembre, donc c'est dans un gros mois, la Cour de cassation va confirmer définitivement ou pas sa condamnation dans l'affaire Big Malion, puisqu'il y a eu appel. Il avait été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Donc il y avait déjà eu du ferme dans l'affaire Big Malion. Il s'agit cette fois du financement de sa campagne présidentielle de 2012. Là, il est en prison pour celle de 2007, avec un record de dépassement des dépenses autorisées. Normalement, la loi autorisait 22,5 millions de dépenses, il en a fait 42,7, qui sera bien difficile à battre. Ces meetings à répétition, jusqu'à 1 par jour dans la dernière ligne de la campagne, avaient été refacturés par l'agence événementielle Big Malion à l'UMP, hein, le LR de l'époque, plutôt qu'au candidat sous prétexte de convention maison bidon. Voilà. Si la Cour de cassation confirme sa condamnation, Sarkozy en serait quitte pour un second bracelet électronique, puisqu'il en avait déjà eu un dans l'affaire des écoutes, qu'il aura discrètement arboré à sa cheville lors du procès libyen au premier trimestre 2025. Il a comparu pour le financement libyen de sa campagne de 2007 avec un bracelet électronique qu'on lui avait mis dans l'affaire des écoutes. L'affaire... C'était quoi son pseudo déjà? Ah! Vous vous rappelez? Paul Bismuth.
Vous êtes les meilleurs.
Paul Bismuth. Ah bah c'est écrit ici. Parfois surnommé affaire Paul Bismuth, du nom d'emprunt qu'il avait utilisé pour ouvrir une ligne téléphonique parallèle, se sachant mis sur écoute dans l'affaire Bettencourt. Affaire Bettencourt dont il sortira indemne d'ailleurs. Ça va faire du boulot à ces bâtards de Bordeaux. Il balançait son ami et avocat Thierry Herzog dans l'un de ses échanges au sujet des juges bordelais qui avaient mis le chef de l'État en examen. Voilà.
Donc voilà, à suivre. On attend cette. Merci Sugar. Désolé, Modo, vous avez un petit peu de travail en ce moment, mais ça va se calmer. Ça va durer 2-3 jours comme toujours. Ne vous inquiétez pas. Donc on attend la suite. Je vous lis un petit peu, puis on enchaîne avec. Non, d'ailleurs, je vais vous lire tout de suite le regard du Figaro. Parce que le Figaro défend l'ancien président, et le Figaro dit. Enfin, le Figaro. Ce journaliste du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, parce qu'une rédaction, c'est plein de gens, et ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, mais ce journaliste du Figaro dit il fallait pas mettre Sarkozy en prison. Despotisme judiciaire. C'est une chute au ralenti, écrivait Mauriac en 1958, constat vérifié dans les fondements, il y a des paliers. Avant-hier, un gouvernement qui se stabilise sur le EPS. Bon, voilà, bah c'est de la politique, attends, blablabla, j'y vais. Je vais à l'essentiel parce qu'on va y passer 2 heures. Ah, voilà. Aujourd'hui, un ancien président de la République qui prépare son trousseau avant d'être incarcéré comme un narcotrafiquant, un violeur, un terroriste de la prison de la santé. Son crime introuvable, estime le Figaro. Le tribunal l'a admis. Il a même relaxé Nicolas Sarkozy des chefs d'inculpation pour lesquels il était poursuivi. En même temps, il a reconnu coupable d'association de malfaiteurs, forme judiciaire de la FAB. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et c'est donc quelqu'un des tiens. Instruction fondée sur un faux, jugement aussi clément sur le fond que sévère dans la peine prononcée. Si on y ajoute le mandat de dépôt et l'exécution provisoire, on cherche désespérément ce qu'il reste de la présomption d'innocence. Le Figaro nous dit, Sarkozy, il est innocent. Bon, la justice en a décidé autrement. Poser la question, nous dit-on, c'est déjà mettre en péril l'état de droit. Dans une fascinante inversion, l'autorité judiciaire s'affirme en pouvoir ultime et incontestable, ce qui est l'exacte définition du despotisme. Derrière les barreaux, il y a un homme, même si l'adversaire le reconnaisse. Nicolas Sarkozy, dans cette épreuve, montre un mélange de... C'est pas moi qui dis ça, hein. Juste parce qu'après, je vais encore me prendre des... Calmez-vous. Parce qu'après, je vais dire, oui, ça me tient. Hein, c'est le Figaro, hein. Hein, c'est l'édito du Figaro, ok ? Non, mais je préchote. Hein. Parce que là, après, ça devient hardcore. Voilà. Voilà. Nicolas Sarkozy, dans cette épreuve, montre un mélange de dignité, d'éloquence, de tempérament romanesque, qui le hisse au-dessus des êtres en mousse que l'on croise de plus en plus souvent dans les sphères du pouvoir. Il l'a dit, ce n'est pas sa liberté qui est en jeu, mais son innocence. Le principe l'emporte sur sa personne. Désormais, cette histoire le dépasse comme elle dépasse les magistrats qui ont prononcé la sentence. Avec elle, la justice française est frappée du soupçon d'arbitraire, hein, de vengeance idéologique, de volonté de puissance. Est-ce que la balance judiciaire ne serait pas détraquée, se demande ce journaliste du Figaro. Quand il passera les portes de la prison, c'est fait depuis ce matin, Nicolas Sarkozy perdra temporairement sa liberté, mais l'autorité judiciaire, pour longtemps, perdra sa crédibilité. Sweet Carol dit « Bah, je croyais que la justice était laxiste. » Ah, c'est vrai que le Figaro est un journal qui, par ailleurs, dit souvent que la justice est laxiste. Mais pas là, il trouve qu'elle a été trop sévère. Ça dépend. Après, comme le rappelle Moulbit, le but d'un édito, c'est de donner son avis, c'est de reprendre parti. Donc vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec cet article, bien sûr. Le journaliste n'a pas donné son avis, il doit rester impartial, neutre. Non, Phoenix, ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est... Non, c'est-à-dire qu'un journaliste a le droit de donner son avis s'il te précise bien que ça n'est que son avis. Ouais. Un journaliste, il faut qu'il sache distinguer les faits de son avis. Voilà. Donc, un journaliste peut donner son avis à condition qu'il te dise bien que ça n'est que son avis et donc que ça vaut pas grand-chose. Ben, que c'est juste ton avis. Ouais. Là, c'est ce qu'il fait. C'est marqué éditorial, en assez gros. C'est écrit dessus. C'est l'avis du Figaro. Enfin, de ce journaliste du Figaro. Exactement. Allez.
Alors je sais qu'il est très à la mode en ce moment dans certains milieux sur Internet d'utiliser le mot free, free, libéré, free, free, free telle personne, free. Vous me permettrez de dire plutôt free Gaza ce matin, qui me semble un sujet plus important. Voilà. Et on va en parler justement de Gaza. Hop, quelle heure il est? 1h28, let's go. Après, on a chacun ses combats, hein. Chacun ses combats. Hop, 1h28. Hop. Vivre à Gaza. C'est la lune de la croix. On y est. Allons-y. 1h29, 1h29, on est bon. Ouais, 1h28, comme ça. Ceux qui nous rejoignent en cours de live savent de quoi on a parlé avant. Ils savent qu'on s'est dit bonjour, qu'on a fait le sommaire, qu'on s'est penché sur le vol des bijoux au Louvre, qu'on a parlé de Sarkozy en prison. Et maintenant, c'est Gaza. Voilà. À Gaza, vivre malgré tout. Merci, merci à toi. Malgré la fragilité du cessez-le-feu, des Gazaouis tentent avec grande difficulté d'envisager l'avenir sur un territoire détruit à 78%. Alors que le cessez-le-feu reste très précaire dans l'enclave palestinienne, des Gazaouis nous ont partagé les sentiments mélangés qui les étreignent, entre soulagement d'être en vie, parce qu'a priori les bombardements israéliens sont suspendus, enfin il y a eu des frappes là, et puis ça s'est recalmé, entre soulagement d'être en vie et impossibilité de se projeter dans une bande de Gaza détruite à 78%, où ils ont perdu maison, travail et parfois espoir, et puis souvent beaucoup de proches, hommes, femmes, enfants. À Gaza, donc, le début d'une nouvelle épreuve, celle du deuil et de la reconstruction. Sama Hamdan est en pleurs sur la petite vidéo qu'elle a envoyée le 12 octobre. Elle se filme le visage noyé par les larmes. Le cessez-le-feu est donc entré en vigueur l'avant-veille. Les otages israéliens doivent être relâchés le lendemain. Pourtant, cette ancienne professeure de français, cette palestinienne de Gaza, partage des émotions indescriptibles. Je suis heureuse et triste en même temps, souffle-t-elle depuis la tente où elle a trouvé refuge à Al-Bureij, après avoir été chassée de sa ville de Gaza, Gazaville, la capitale. Je suis heureuse, dit-elle, cette ancienne prof de français, parce que je suis vivante et mes enfants aussi. Mais c'est impossible d'oublier ce qui s'est passé, les destructions, la famine, les mères qui ont perdu leurs enfants. Pour nous, c'est le début d'une deuxième guerre. Maintenant, on n'a plus de maison où retourner, plus de vie, plus d'éducation. La première phase de l'accord de paix négocié par Trump, approuvé par le cabinet Netanyahou, prévoyait que l'armée se retire de Gazaville, où elle menait une opération depuis fin août. Les forces israéliennes sont désormais retranchées derrière une ligne jaune qui leur donne le contrôle de 53% de l'enclave actuellement. À la faveur de ce départ, et bien que l'armée israélienne ait mené dimanche, je vous le disais, plusieurs frappes dans le sud de la bande de Gaza, des milliers d'habitants évacués en septembre ont tenté de réinvestir leur maison, pour ceux qui avaient encore une maison. Beaucoup n'ont trouvé que des ruines en essayant de retrouver leur maison et des quartiers entièrement rasés. À Gazaville, 92% de l'habitat. Karias, t'as raison. Juste après le Proche-Orient, on parlera de l'enlèvement de Ryan et on ira montrer l'image. Merci Gascon. On ira montrer l'image peut-être de ce petit garçon qui a été enlevé. J'ai vu ça passer ce matin. Peut-être que voilà, peut-être qu'on peut aider à faire circuler cette image. Juste après Gaza, vous me le rappelez, d'accord? On ira chercher cette info, ok? On n'oublie pas. Beaucoup n'ont trouvé que des ruines, des quartiers entièrement rasés à Gazaville. 92% de l'habitat est totalement détruit ou endommagé. Les destructions sont apocalyptiques, décrit une journaliste et jeune maman qui s'appelle Shrouk Eila. La maison que je louais dans la ville de Gaza est partiellement détruite. Je ne peux pas la récupérer tant que les marchandises et les matériaux ne sont pas autorisés à rentrer. L'essentiel des infrastructures est hors service, privant les habitants d'eau, de réseau d'électricité. Ah, on me dit qu'il a été retrouvé sain et sauf, le jeune homme. Et l'alliance, c'est vrai? On me dit que le jeune homme enlevé a été retrouvé sain et sauf. On me dit oui. Kant me dit oui. Bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle. On ira vérifier ça, ok. A priori, il a été retrouvé, ok. Ok. Bon, on ira vérifier quand même. C'est confirmé? Ok. On a une autre habitante ici qui s'appelle Tala, qui est diplômée en droit, qui dit le cessez-le-feu est une fin qui marque le début d'une nouvelle et implacable tristesse. Les gens qui font face à une nouvelle guerre qu'ils ont repoussée pour survivre, le deuil, la reconstruction de leurs âmes, la souffrance n'est pas arrêtée, au contraire, les plaies se sont rouvertes, décrit la jeune femme. C'est comme si l'espoir était devenu un luxe qu'on ne peut plus s'offrir. Avec leur grand frère et leurs parents, Tala et Nour ont retrouvé refuge dans un petit appartement de Deir el-Abba, dans le centre de l'enclave. Nour, donc qui est sa sœur, je crois, diplômée en communication âgée de 26 ans, confie sa confusion émotionnelle. Personne ne sait comment recommencer à zéro. Ceux qui ne sont pas blessés sont fragiles psychologiquement. Nous aurons besoin de beaucoup de temps pour nous remettre. Nous essaierons de rester forts. Mossab, autre jeune réfugié dans le sud, constate toutefois une amélioration dans l'accès aux services les plus vitaux par rapport à ce qu'il a connu en août, hein, quand l'ONU avait déclaré l'état de famine, vous vous souvenez, à Gaza, on en avait beaucoup parlé. En quelques jours, il a marché au milieu des ruines à deux reprises en quête des restes de sa vie ancienne. Voilà. Ma maison est totalement perdue, j'ai été choqué de voir que celle de mon frère sur laquelle nous comptions a été réduite aussi en tas de gravats. Le cessez-le-feu qui reste très précaire, hein, il a été rompu dimanche, ne garantit pas le calme. Le Hamas combat désormais d'autres groupes armés pour tenter d'imposer son contrôle. Voilà. Et on a un éclairage sur le flou du plan Trump, qui est une menace pour cesser le feu. Est-ce que ce cessez-le-feu qui a déjà été interrompu dimanche là, est-ce que ce cessez-le-feu va se poursuivre? Est-ce que les Palestiniens de Gaza peuvent espérer ne plus recevoir des bombes à n'importe quel moment? Est-ce que même mieux, ce cessez-le-feu pourront conduire vers autre chose, vers une paix qui s'installerait durablement dans la région? Hein, certains disent qu'on est bien naïf d'y croire, mais c'est pas une question d'y croire, c'est qu'on l'espère, mais on peut l'espérer sans trop y croire. Et justement, on a un article là-dessus, le flou du plan Trump qui menace ce cessez-le-feu. On va lire ce papier. Les émissaires américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont rencontré Netanyahou, le gouvernement israélien, donc, lundi, en vue de discussions sur la situation à Gaza, où le cessez-le-feu est de plus en plus fragilisé. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, conclu le 10 octobre, sous la houlette, vous le savez, de Trump, a connu ses premiers dérapages dimanche, là dimanche, après que l'armée israélienne a mené des dizaines de frappes aériennes sur la bande de Gaza, évoquant des violations apparentes de la trêve par le Hamas. Dimanche soir, l'État hébreu a annoncé l'arrêt de ses frappes après avoir accusé le Hamas d'avoir attaqué ses troupes à Rafah, où deux soldats ont été tués. De l'autre côté, je crois qu'il y a 45 morts. En parallèle, des combattants palestiniens qui s'étaient approchés de zones de contrôle israélien dans le nord ont été éliminés lors d'une frappe. Le bilan côté palestinien est d'au moins 45 victimes. Ces premières violences, que quelqu'un disait tout à l'heure, mais il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Je comprends ce que tu veux dire. Ce cessez-le-feu, il a été violé, quoi. Ces premières violences depuis le début de la trêve font craindre quant à la viabilité de l'accord. Mais le président Trump, interrogé lors d'un déplacement à Washington, veut y croire. Interrogé sur le fait de savoir si le cessez-le-feu était toujours en vigueur, il a répondu sans hésiter, oui, il l'est. Voilà. Quoi qu'il en soit, dit-il, Trump, la situation sera gérée correctement, fermement, mais correctement. Il a envoyé donc deux émissaires américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, à Tel Aviv, ils sont arrivés hier à Tel Aviv, reçus par Netanyahou, donc. Et parallèlement, une délégation du Hamas était reçue au Caire, en Égypte, pour discuter avec les médiateurs égyptiens et qatariens du cessez-le-feu et d'un prochain dialogue interpalestinien. Les événements de dimanche ont montré que le cessez-le-feu conclut sous pression d'un côté par les États-Unis, de l'autre par le Qatar, et l'Égypte demeure fragile. On pouvait s'attendre à ce que les réticences se manifestent par la résistance au cessez-le-feu et de l'un et de l'autre, hein, le Hamas et Israël, l'un et l'autre qui trouvent des prétextes pour le rompre, estime une chercheuse qui s'appelle Laetitia Bucaille. Si les pays arabes se sont engagés à assurer le respect par le Hamas de l'accord, Trump doit veiller à garder Israël sous contrôle afin de s'assurer que les prochaines étapes de son plan se concrétisent, alors que tout le monde soupçonne Netanyahou et le Hamas d'avoir accepté pour la forme le cessez-le-feu, mais de vouloir le rompre le plus vite possible, quoi. Or, celui-ci est flou, hein, le plan de paix. Comment désarmer le Hamas? Qui va gouverner le territoire gazaoui? Quelle autorité palestinienne sous contrôle international? Quel représentant de la Palestine? Quel contrôle international? Qui va participer au contrôle de l'armée israélienne? Des questions restées pour l'heure sans réponse. Trump n'arrive pas encore à transférer son discours magique à la réalité du terrain, souligne Laetitia Bucaï. Il a confié à d'autres le soin de faire entrer la réalité dans son plan, dont le cap n'est pas forcément réaliste. Donc la croix n'est pas totalement, comment dire, dupe. La croix, comme tous les gens un peu sérieux qui réfléchissent au sujet, savent que le chemin vers le retour à la paix dans la région, il est très, très, très long, très, très compliqué. Que ce cessez-le-feu est un espoir, mais un espoir ténu, et que rien ne dit que ce cessez-le-feu il va se poursuivre. Rien ne dit que ce plan de paix en 20 points de Trump va réussir à s'appliquer, parce que son application est extrêmement difficile, et compte énormément sur le comportement des acteurs de ce conflit, que sont le Hamas, que sont Israël, que sont les pays de la communauté internationale, et ça va être très compliqué. Je vous lis. Ouais, Aïsrabi, je suis d'accord, La Croix, c'est un journal qui est d'une grande qualité par ses articles, ouais. Passe 39, on lit régulièrement les articles sur la Cisjordanie aussi, là j'en ai pas ce matin. Là on est dans La Croix, Taux TVA, merci. Ouais, c'est ce que dit Trump d'ailleurs, j'arrête. J'ai vu que le cessez-le-feu avait été brisé par des rebelles du Hamas, pas par le Hamas directement, pas sûr de l'info, par contre quelqu'un peut confirmer, c'est ce que semble dire Washington aussi. Salut Cuvette, on fait pas que du Valo, enfin, on fait surtout de l'actu. Le Valo c'est pour le plaisir, c'est la petite détente du soir, mais le matin on est tous les jours du lundi au vendredi sur l'actualité. C'est mon principal rendez-vous depuis 5 ans sur Twitch. Et maintenant sur TikTok. Valo, ce soir je sais pas. Je sais pas si je stream ce soir. Parce qu'il faut que j'écrive... Il faut que j'écrive mon émission MVP de demain matin. Ouais. Mais je vais essayer. Je voudrais vous parler de TikTok ce matin. Alors c'est amusant parce que sur TikTok, puisqu'on est sur TikTok aussi, en live depuis quelques semaines en plus du live sur Twitch, on va parler de TikTok. Voilà. Alors pour moi, TikTok a deux visages. Voilà. Comme beaucoup d'outils numériques, comme beaucoup de réseaux sociaux d'ailleurs. Un outil qu'on peut... qui peut être très positif. Voilà, moi je trouve personnellement, je passe pas mal de temps sur TikTok et je vois des choses intéressantes. Je découvre des nouveaux artistes, je vois beaucoup de sport. Je vois, en ce moment j'ai beaucoup de clips moi sur Battlefield 6 parce que l'algorithme a détecté que je m'intéressais à BF6. Et du coup j'ai plein, j'ai quasiment un clip sur deux. C'est des tutos sur Battlefield 6 ou des réglages dans Battlefield 6. Quoi. Donc on est à 1h42. 1h42, je vous le mets. Voilà. Donc, TikTok, ça peut être un reflet de ses passions et on peut y apprendre vraiment plein de choses. Voilà. Sauf que le problème, c'est que sur TikTok, il y a un algorithme qui va te mettre en avant d'une façon extrêmement puissante des contenus parce que l'algo aura détecté qu'il t'intéressait, en tout cas que tu les regardais. Quel que soit ce contenu, quelle que soit la qualité de ce contenu. Et c'est ça le problème. Parce que bon, si tu t'intéresses à la musique et au sport, bon, très bien, TikTok va t'envoyer de la musique et du sport. Mais si tu es un jeune, si tu es un ado ou un jeune adulte, voilà, et que tu as des idées noires, et que tu vas regarder une vidéo un peu dark, voilà, à même plutôt... De te confirmer dans cet état d'esprit, voire même t'inciter à te présenter, par exemple, le suicide
de manière romantique, parce que ce genre de contenu existe, eh bien, si TikTok détecte que tu regardes, que tu as regardé au moins une fois ce genre de contenu, TikTok va t'en reproposer. C'est le problème de l'algorithme. Voilà. Et on en a de plus en plus conscience. Et là, il y a Amnesty International, l'ONG. Holinox dit, j'ai pas du tout ce genre de contenu. Bien sûr, tout dépend de ce que tu consommes. Mais le problème, c'est qu'après, c'est en boucle. Hein? Et là, il y a une ONG qui dénonce cela. Merci Mastanes pour ce raid. Merci et n'hésite pas à me dire sur quoi tu étais. Sur quoi tu étais en train de streamer. Hein? Amnesty International, donc, dénonce les spirales dans lesquelles le réseau social chinois entraîne ses utilisateurs avec des contenus parfois très sombres. L'ONG va d'ailleurs saisir l'ARCOM en France à ce propos. Tiens, tu vois, M. Fahrenheit me confirme, pendant ma rupture, mon algorithme était horrible en effet. Voilà. C'est en podcast, Géouia. Ma revue de presse est en podcast tous les jours à partir de 15-16 heures sur toutes les plateformes audio. Ok. Ouais, on est sur avec Amnesty International RISMA, c'est l'ONG. On peut faire un reset. Oui, normalement, on peut faire un reset de son algo, oui. Ouais. Lisons l'article, ok ? Je ne me doutais pas de ce que j'allais trouver quand j'ai regardé dans son téléphone, raconte Stéphanie Mistre. C'est une maman. Il y a 4 ans, sa fille Marie, qui aurait fêté ses 20 ans ce 21 octobre, s'est donné la mort. Donc la jeune femme avait 16 ans. Et pour sa mère, TikTok en est le responsable de ce suicide. Plus précisément, ces spirales dans lesquelles le réseau social enferme ses utilisateurs. Je suis resté sidéré par ce que j'ai vu, comme ces chansons en boucle qui présentaient le suicide comme une libération. Hein. Sur TikTok, des chansons qui présentaient le suicide comme une libération. Voilà. Et voilà ce qu'il y avait dans le fil TikTok de son enfant, de sa fille de 16 ans. D'après un rapport qu'Amnesty International sort aujourd'hui, mardi, rien n'a changé depuis la mort de cet ado. TikTok n'a toujours pas réglé les risques associés à son modèle économique. Les mesures d'atténuation n'empêchent pas d'attirer les mineurs dans un univers où l'automutilation, le désespoir sont la norme. Hop, salut Benoît. Voilà. Entre juin et octobre dernier, l'association a réalisé un test. Elle a créé 3 faux comptes d'utilisateurs. Au bout de 5 minutes, sont apparues dans leur fil pour toi, donc les suggestions de la plateforme, les premières vidéos sur la santé mentale. Les testeurs devraient regarder ce type de contenu 2 fois d'affilée. Très vite, la machine s'emballe. Au bout de 15 minutes seulement, sur les 3 comptes, n'étaient proposées que des vidéos de développement personnel, de coaching et autres contenus de santé mentale. Hein. Plus de la moitié de ces contenus étaient déprimants ou tristes. Les premières idées suicidaires apparaissent après 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Et dans un délai de 3 à 4 heures, des vidéos présentant une vision romantisée, presque idéalisée du suicide ou de l'automutilation, décrit quelqu'un d'Amnesty International. Les comptes ont été créés 3 à 4 heures auparavant. C'est fou ça. Sur TikTok, plus l'utilisateur présente un intérêt pour un contenu, plus il en reçoit. Bon, ça, en vrai, en soi, quand tu regardes du contenu qui n'est pas gênant pour ta santé mentale, il n'y a aucun souci. Ouais. Et Max, mais moi, j'ai toute ma journée, mon Max. Et vous savez, moi, je suis d'une patience infinie, les gars. Donc, faites-vous plaisir. Hein. J'ai tout mon temps, moi. Et puis arrêtez de me donner la force en fait, parce que est-ce que vous avez bien conscience, il y a des gens qui sont un peu en colère en ce moment, qui viennent un peu clamer leur opinion dans le chat, ce qui ne me gêne pas du tout, mais parfois c'est fait avec assez peu d'élégance et de finesse et d'intelligence, et parfois c'est injurieux, et dans ce cas-là je fais des petits, on régule un petit peu. Mais arrêtez de me donner la force en vrai les gars, vous savez que vous êtes en train d'exploser mes stats, vous me donnez énormément de force, vous gonflez mes stats de live, vous donnez de la force à ma chaîne. Voilà. Vous allez me donner davantage d'OP parce que les marques vont voir que mes audiences sont hyper fortes. Arrêtez de me donner de la force, les gars. Cessez de venir sur ce live. Mais vous êtes en train d'exploser mes stats, quoi. Je ne mérite pas autant de bienveillance. Je le dis pour vous, hein. Vous pensez m'ennuyer, mais vous me donnez de la force. C'est totalement contre-productif. Moi, je veux bien, hein, je prends, hein. Mais mes stats, elles sont là, quoi. Elles étaient déjà bonnes, mais là, elles deviennent excellentes. Franchement, il y a plein d'autres chaînes que vous pourriez soutenir. Mais merci, hein, en vrai. Merci quand même. Je reviens à TikTok. Sur TikTok, plus l'utilisateur présente un intérêt pour un contenu, plus il en reçoit. Nous avons fait témoigner des jeunes. Comme ils avaient déjà un certain mal-être, ils ont commencé à visionner ce type de vidéo, explique une spécialiste. Mais ça va très vite et très loin, c'est exponentiel, et ils nous ont confié avoir l'impression qu'on les maintenait la tête sous l'eau. Voilà. Le système de TikTok se base sur le visionnage de séquences très courtes, bon, pour ça on connaît. Voilà. Celle-ci défile à l'infini, l'utilisateur n'a qu'un effort minimal à fournir, soit il regarde, soit il passe à la suivante, bon, c'est scroller, moi j'aime bien. Voilà. Ce petit geste, on dit long, visionner, changer, ne rester que quelques secondes, regarder en boucle, liker, partager ou même augmenter le volume, informe sur les centres d'intérêt de l'utilisateur à l'instant T. Bon, vous connaissez ça. Ainsi, TikTok crée un profil extrêmement précis de l'utilisateur, une sorte d'empreinte digitale numérique. Détail Jérôme Béranger, cofondateur et PDG de GoodAlgo, qui est une société spécialisée en data science et en éthique. Merci Midas pour le prime. Chaque utilisateur dispose d'un fil qui lui est propre, avec des vidéos censées lui plaire. On a tous des fils de TikTok extrêmement différents. Hein ? Deux heures... Oui, je suis bien. Avec des vidéos censées lui plaire. Et c'est ainsi qu'il y reste des heures et qu'il y retourne. Voilà. Alors, parfois... Exactement, Alex, j'allais le dire, Alex le dit très très bien, Alex le dit, TikTok ne se base pas sur ce qu'on aime, je pense que l'article se trompe un peu là-dessus, mais sur ce qui fait réagir même si on n'aime pas. C'est-à-dire, si tu regardes un contenu qui te dérange, problématique, mais si tu le regardes, on va t'en reproposer. C'est pas forcément que tu l'aimes. Et un contenu qui te gêne, qui te dérange, et même qui te tire vers le bas, qui te donne des idées noires, tu risques le ban en critiquant TikTok. Je te promets, je m'en... Tu sais, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'embête, en fait. Si je pense qu'il est important de parler de ça, je suis absolument pas gêné de dire que dans TikTok, il y a des trucs qui ne marchent pas, quoi. TikTok, moi, je trouve qu'il y a des aspects extrêmement intéressants. Mais je pense qu'il faut qu'ils changent leur algorithme, là. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. Et notamment, effectivement, tu as des contenus très négatifs pour toi, même si tu ne l'apprécies pas, si tu le regardes, l'algorithme va t'en proposer. Exactement, comme le dit Herbivore Foussard, il faut protéger les plus fragiles de notre société. C'est exactement le sujet. C'est exactement le sujet. Hein. Pour l'entreprise, c'est un sacré enjeu économique. Pourquoi TikTok ne change pas son algo ? Parce que cet algo, très puissant, eh bien, c'est le cœur du réacteur économique de l'entreprise. C'est ce qu'explique l'auteur du journal de Mev. Voilà, TikTok propose des publicités ultra ciblées qu'elles vendent très cher puisqu'elles ont de grandes chances d'aboutir à un acte d'achat. Hein? TikTok ne modifiera jamais cela, parie cet auteur. Face aux critiques émises sur les bulles de filtre, c'est ce qu'on appelle les bulles de filtre, TikTok a mis en place des mesures, un reset. Donc le reset, a priori, il existe. Pour repartir à zéro. L'ajustement de la fréquence de recommandation sur une thématique. Des propositions de méditation le soir pour les mineurs. Mais ces mesures sont insuffisantes par rapport aux fonctionnalités addictives, regrette Katia Roux. Alors même selon elle qu'il est possible de faire autrement. Un autre choix de conception. Donc l'ONG, donc Amnesty International, doit saisir ce mardi l'ARCOM pour manquement aux obligations de protection de mineurs ou d'adoption de mesures d'atténuation de son système. Ouais. La Commission européenne enquête de son côté pour savoir si TikTok enfreint ou non le règlement sur les services numériques. Voilà. En France, le collectif Algos Victima, créé par cette famille, dont Stéphanie Mistre, la maman qui a perdu sa fille de 16 ans, là, a aussi porté plainte. Enfin, en septembre, une commission parlementaire a dit aussi saisir la justice pour mise en danger de la vie des utilisateurs. Voilà, elle recommande désormais d'interdire TikTok aux moins de 15 ans. Sinon, il y a la solution JDG, me dit Cibourg. C'est quoi la solution JDG ? En vrai, interdire TikTok aux moins de 15 ans, je ne suis pas contre. Ça ne me semble pas totalement... Est-ce qu'on a besoin de TikTok avant 15 ans ?
Il y a Sweet Carol qui dit heureusement, franchement, qu'il n'y avait pas de ces réseaux quand j'étais ado. Je pense un peu comme toi, moi. Je vous lis un petit peu, les amis, sur ce sujet. Merci, Alex. Est-ce qu'on a besoin de TikTok? Il y a des aspects de TikTok que je trouve intéressants, moi. Il y a des contenus sur TikTok qui sont intéressants. Mais encore faut-il qu'on soit exposé à ces contenus-là et pas aux contenus problématiques qui mettent en danger notre santé mentale, voire notre vie tout court. Merci. Merci, ma puce. Et mon épouse qui vient de sub. Merci, ma puce. Voilà, il y a aussi une répercussion dans la vie scolaire de ces ados, et c'est de plus en plus grave. Merci LPR pour ton message. J'ai interdit TikTok à mes enfants collégiens, mais tous leurs amis ont TikTok, ils se sentent exclus, me dit Fafa. C'est intéressant. Excusez-moi, c'est mon épouse. Vous êtes important et mon épouse l'est beaucoup plus. Combien de temps ça prend de préparer les revues de presse? Oh, c'est pas beaucoup en vrai, parce que je lis ces journaux depuis littéralement plus de 30 ans. Alors je vais vite maintenant. Je dirais, il me faut 2h30, 2h30, 3h avec tu vois, de prendre les captures d'écran, de préparer la revue de presse, de faire les titres, tout ça, 3h max, quoi. C'est mon petit plaisir du matin, ça. Je vous lis. Il faut mieux éduquer les jeunes sur les risques d'Internet et des réseaux sociaux. W17, oui. Mais sans TikTok, est-ce qu'on aurait pu avoir les édits de Samuel? Je vous lis. Merci à Chérite. Merci à Tilks71, pardon, j'avais pas vu. Merci encore, Midias. Je pense qu'interdire TikTok aux moins de 15 ans, c'est très bien, me dit Manon. On ne devrait pas souffrir de mauvais contenus à cet âge. Il faudrait surtout modérer des contenus à risque. Alors, ça c'est très intéressant. Et un autre débat qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme des éditeurs de contenu. C'est-à-dire que les réseaux sociaux disent nous, on n'est pas responsable du contenu qu'il y a sur chez nous. Hein. C'est les utilisateurs qui en sont responsables. Nous. Et du coup, et pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, la modération de ce contenu, bah, ça coûte de l'argent. Ça coûte bah, des gens qui s'en occupent. Et d'ailleurs, une des premières décisions de Elon Musk quand il a racheté X, Twitter, qui est devenu X, c'est de supprimer quasiment la modération parce que il faut des moyens, et notamment des moyens humains. Et donc c'était une grosse source d'économie. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont sur cette ligne en disant, mais nous, on n'est pas éditeurs. Voilà. Et l'objectif des pouvoirs publics, et notamment en Europe, c'est au contraire, d'obliger ces réseaux sociaux à assumer leur responsabilité d'éditeur. Voilà. Voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai un article dans La Croix, à nouveau, qui donne la parole à Stéphanie Mistre, la maman qui a perdu sa fille de 16 ans, comme ça, hein, dont le fil TikTok était rempli d'incitations finalement au suicide, et qui en parle, regardez. Convaincue que les réseaux sociaux ne sont pas de simples hébergeurs de contenu, mais des éditeurs à part entière, en ce sens qu'ils les hiérarchisent et les organisent, ces contenus, Stéphanie Mistre déplore des protections encore insuffisantes. Voilà. Ma deuxième fille sait très bien comment passer outre le contrôle parental d'Apple et celui de Custodio. J'ai quoi comme possibilité pour protéger la fille qu'il me reste, dit cette maman. Voilà. Depuis quelques semaines, la jeune sœur de Marie aura 15 ans. Donc c'est l'une des pistes, c'est d'obliger les réseaux sociaux à admettre leur responsabilité d'éditeur et donc de vérifier la qualité du contenu qui est proposé
Notamment au plus fragile, quoi. Ouais, la fille qui me reste, c'est terrible, ouais. Je travaille en collège, me dit Espa Mitch, et on commence tout juste à faire de la prévention, et encore, c'est de notre initiative personnelle, d'enseignants, hein, je crois comprendre, et non de l'éducation nationale. C'est une responsabilité collective, hein. Les enseignants doivent participer à cet effort, l'éducation nationale, les familles évidemment, les parents. C'est un travail collectif. Voilà. C'est en sensibilisant, en protégeant les plus jeunes, les plus fragiles, de ces contenus qu'on pourra avancer sur ces sujets, quoi. Voilà. Et l'État a un rôle à jouer, l'éducation nationale a un rôle à jouer, les profs. Les parents, les amis aussi, qui peuvent aussi sensibiliser des camarades à ces sujets, quoi. C'est un travail collectif. Voilà. Bon, en tout cas, je suis heureux d'en avoir parlé avec vous ce matin. Let's go. Ah! Je surveille l'heure, mais je pense qu'on est OK. On est OK. Attends, je vérifie à quelle heure j'ai reporté mon premier rendez-vous. Ah, c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. On est bien. On va parler de la crise politique en France, je crois. Ouais. Mais. Dans cette crise politique qu'on connaît, le cornu, etc., les gouvernements qui ne tiennent pas très longtemps, l'absence de majorité, tout ça. Mais surtout les conséquences sur la défiance grandissante des Français vis-à-vis de la politique. OK? Donc on passe à ce sujet. Hop. Je vous mets la petite flèche sur TikTok, comme ça vous savez où on en est, vous savez ce qu'on a traité auparavant comme sujet. Sort du sujet TikTok, on va sur politique, la défiance. Comprenez la défiance des Français et des Françaises. En hausse, on est à 2 h tout pile de stream. J'ai pas testé Fragpunk, Poney Ninja. 2 h tout pile, 2 h tout pile. 2 h, ok. Ok. Let's go. Ok. Crise politique, la défiance des Français au plus haut, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous sont extrêmement défiants et méfiants vis-à-vis des politiques et de la politique en général. Et ce sentiment, il va grandissant. L'instabilité politique accroît le rejet du personnel politique par les Français. C'est une nouvelle étude qui le met en évidence, qui s'appelle Fracture française, menée par Ipsos pour le journal Le Monde. Plus de 9 personnes interrogées sur 10 se disent mécontentes actuellement, se disent en colère. Près de 60% demandent la démission du président Macron. Voilà, tout à fait, ça me dit Carole. On ne fait plus confiance. Voilà. Le Rassemblement National est le parti politique dont les Français se sentent le plus proche ou le moins éloigné aujourd'hui. Voilà. Loin devant tous les autres. 8 Français sur 10 estiment que le système démocratique fonctionne mal en France et qu'ils ne sont pas bien représentés. Donc on voit qu'il y a un vrai problème, quoi. La crise politique accroît la défiance. Lisons cet article, et puis en parlons-en ensemble. Décembre 2024, à l'époque, le gouvernement Barnier était sur le point de tomber. L'enquête Fracture française faisait le portrait d'un pays inquiet, décliniste, mécontent de ses dirigeants. Ouais. Non seulement ça n'a pas beaucoup changé, mais ça s'est même aggravé. 11 mois ont passé, le successeur de Michel Barnier, François Bayrou, lui aussi est tombé. Sébastien Lecornu manœuvre précaire au Parlement pour éviter lui aussi de tomber. Ouais. La crise politique s'éternise et approfondit la défiance. Dans un contexte économique difficile pour la majorité des ménages, donc cette enquête est menée. Si la défiance concerne l'ensemble du personnel politique, Emmanuel Macron apparaît comme celui qui accuse le plus grand décrochage. 58% des personnes interrogées souhaitent sa démission. Il n'était que 52% en 2024. Fait notable. Au moment où le président est contraint de se tourner vers la politique étrangère, près des 2/3 de sondés, 65%, ne lui font pas confiance pour protéger le pays des risques de guerre, qui sont jugés forts par 4 sondés sur 10. La cote de popularité du président est vraiment au plus bas. La perspective d'une dissolution de l'Assemblée suscite de plus en plus d'adhésion. 43% des sondés souhaitent de nouvelles législatives. Voilà, c'est de plus 12 points par rapport à 2024, ça va très vite. Cette proportion monte à 64% chez les sympathisants du RN, 54% pour ceux de LFI et du PC, Parti communiste. Preuve que l'instabilité fait vaillir les certitudes. Si les sympathisants des différents partis plébiscitent logiquement la nomination d'un Premier ministre issu de leur camp, on peut noter que ceux de Renaissance ne sont qu'un sur deux à vouloir un Premier ministre centriste. Quelques 18% d'entre eux seraient prêts à essayer un Premier ministre issu de la gauche, 23% de la droite, 8% même du RN. Au-delà de la personne du chef de l'État qui, vous l'avez compris, cristallise en fait une grosse partie de la colère. Au-delà de la personne du chef de l'État, les acteurs politiques souffrent d'une défiance généralisée. Ainsi, les partis politiques n'inspirent confiance qu'à 10% de sondés. Les partis politiques n'inspirent confiance qu'à 10% des sondés, moins 4 points par rapport à 2024. Les députés, la confiance est à 20% seulement. Voilà. La perception d'une corruption généralisée du personnel politique est à son plus haut niveau depuis 2017, année d'élection d'Emmanuel Macron, sur des promesses de renouvellement et de transparence. Deux tiers des personnes interrogées jugent que la plupart des femmes et hommes politiques sont corrompus. Et près de 9 sondés sur 10, 87%, pensent que ces derniers, donc les hommes politiques, les femmes politiques, agissent principalement pour leurs intérêts personnels. Les chiffres sont très élevés. Il n'y a guère que les maires, les élus de ville, qui puissent rassurer un peu à l'approche des municipales de mars 2026, puisqu'ils continuent d'avoir la confiance de 68% des personnes interrogées. En trame de fond, la première préoccupation de la population française reste le pouvoir d'achat. 36% des personnes interrogées, suivi de la délinquance, 22%, et de l'immigration. Une majorité, 57%, affirme que son ménage joint difficilement les deux bouts. Hein, c'est plus 2 points par rapport à 2024. Après, il y a l'analyse un petit peu des souhaits de chacun, notamment en matière d'impôts. En matière économique, les difficultés vécues vont de pair avec les clivages politiques clairs. L'idée que pour établir la justice sociale, il faut prendre aux plus riches pour donner aux pauvres est plébiscitée à 61%, majoritairement à gauche, mais réfutée à droite. En parallèle de cette volonté forte de redistribution, l'adhésion à la théorie du ruissellement de Macron, vous savez, plus il y a de riches, plus cela profite à l'ensemble de la société, atteint son plus haut niveau dans l'opinion depuis 2018 à 49% d'adhésion. On voit que les Français sont divisés sur ces questions économiques. Les sympathisants du RN sont ambivalents sur les questions économiques. D'un côté, ils sont 57% à approuver une mesure de redistribution des plus riches aux plus pauvres, donc mesure politique sociale. De l'autre, ils sont favorables à 64% à limiter au maximum le rôle de l'État dans l'économie française et donner aux entreprises le plus de liberté possible. Donc les électeurs du RN sont majoritaires pour qu'il y ait plus de redistribution, qu'on prenne plus aux riches pour donner aux pauvres, et en même temps, ils veulent moins d'État et plus de liberté pour les entreprises. Dans ce contexte de difficulté, la crise du politique, de moins en moins opérant pour résoudre les problèmes de quotidien faute de stabilité, pourrait être inflammable. Qu'en est-il vraiment ? À première vue, on peut noter qu'une forme de consensus autour de la démocratie perdure. De temps en temps, vous avez dans le chat des gens qui pop en disant « Ouais, ce qu'il nous faudrait, c'est une bonne vieille monarchie ou une bonne vieille dictature. » C'est un truc que je lis de temps en temps. Bon, la part des sondés estimant que le régime démocratique est irremplaçable parce qu'il est le meilleur possible et stable à 66%. Sauf chez les sympathisants du RN, où tu as 52% de personnes qui estiment que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Donc là, on part sur autre chose. Mais au-delà de cette stabilité de façade, ouais, je sais, 66% seulement, ouais. Je sais, ouais. 8 sondés sur 10 estiment que le système démocratique... Excusez-moi, je vois des petits SMS, je regarde s'il y a des urgences. Merci Yanouf, tu régales, merci pour les bits. Je regarde, parce que j'ai tendance à louper des rendez-vous et des messages, moi. Ok, tout va bien. Donc, 8 sondés sur 10 estiment que le système démocratique dysfonctionne, que leurs idées ne sont pas représentées. Et ça, ce fossé grandissant entre les citoyens et un système qui ne les représenterait plus, c'est très ennuyeux, quoi. C'est source de tensions, de conflits qui vont aller croissant. Voilà. Ce qui peut se comprendre, dit Le Monde d'ailleurs, à l'aune des trois blocs qui sont dessinés lors des législatives 2024, puisque aux dernières législatives, les deux plus gros blocs, c'est la gauche et le RN, et ces blocs ne sont pas représentés au gouvernement, n'ont jamais été représentés au gouvernement depuis ces législatives. Donc ils ne se sentent pas représentés, oui, ils ne sont pas représentés d'ailleurs. 77% des sympathisants PS et écologistes, 85% des sympathisants LFI et PC jugent que leurs idées ne sont pas représentées. 93% des sympathisants RN pensent de même. Autre ombre au tableau démocratique, l'idée qu'il faut un vrai chef en France pour remettre de l'ordre progresse fortement. Voilà. De 4 points de pourcentage en un an et suscite désormais l'accord de 85% des sondés. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que, notamment dans cette communauté, dans cette chat, il y a beaucoup de gens qui disent que notre régime devrait se parlementariser, qu'il faut donner plus de pouvoir au Parlement, que le rôle du président, le président devrait s'effacer, qu'on devrait affaiblir les pouvoirs du président de la 5e pour aller vers quelque chose de plus démocratique. Et bien là, nous avons un sondage qui dit que 85% des sondés sont pas contre l'idée d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Ouais. Ne me demandez pas qui sont ces 85%, je ne sais pas, mais... Un vrai chef, bon, on est plutôt sur quelque chose qui relève de l'autoritarisme, quoi. Tu vois ? On est... Ouais. En tout cas, on n'est pas sur un affaiblissement de la fonction présidentielle, quoi. Alors après, le problème, c'est que dans vrai chef... Je pense que le concept est suffisamment vague pour que plein de sondés puissent se projeter, quoi. Tu vois. Par exemple, tu vois, il y a Guilou qui dit « Vrai chef, je pense genre aura et pas pouvoir ». Mais je pense qu'il y a des gens qui ont répondu à ce sondage en pensant à un vrai chef, mais plutôt un mec qui a un peu les pleins pouvoirs, tu vois. Tu vois, le problème, c'est que c'est très très flou comme concept. Je suis assez d'accord. Paradoxe de l'enquête, si 4 sondés sur 10 se sentent appartenir à une France en colère et très contestataire, cette contestation, plus forte chez les jeunes, les ouvriers, les employés, les sympathisants LFI et RN, ne trouve pas ou peu de débouchés dans les manifestations finalement, dans les mouvements. Les actions de contestation et de rentrée, le mouvement Bloquons tout le 10 septembre, la manifestation du 18 septembre à l'appel des syndicats, sont jugées légitimes mais inefficaces par la majorité des personnes interviewées. Pour 7 sondés sur 10, l'action des syndicats ne permet pas d'améliorer concrètement les situations des salariés et des retraités. Le sentiment que on ne se sent plus chez soi comme avant, en France, est majoritaire. Je relis cette phrase. Le sentiment que l'on ne se sent plus chez soi comme avant est majoritaire dans le pays, 63%. Dans le même temps, une large majorité de Français reconnaît l'existence de racisme dans la société française. Il n'y a que chez les sympathisants RN et LR qu'une proportion importante dément l'existence de racisme dans le pays. Plus t'es à droite et plus t'es à l'extrême droite et moins tu penses qu'il y a de racisme. La perception négative de l'immigration suit des lignes partisanes claires. Bon, ça, c'est pas très surprenant. La perception négative de l'immigration est minoritaire chez les sympathisants de gauche, majoritaire à droite. 95% des sympathisants RN, 95% des sympathisants RN, 86% des sympathisants LR, 57% des sympathisants Renaissance acquiescent à l'idée qu'il y a trop d'étrangers en France. Le centre oscille puisqu'en parallèle, 60% des sympathisants Renaissance jugent que l'immigration est une nécessité pour l'économie française. Sur ce sujet comme sur d'autres, les trois blocs issus des législatives 2024 sont à la fois clairement démilités mais pas toujours aussi homogènes que prévu. De quoi augurer peut-être de recomposition, à condition que les responsables politiques s'appliquent à réparer les fractures plutôt qu'à les aggravé. Et on a un édito là-dessus. Donc le journal qui donne son avis. Là, c'est les faits, c'est des chiffres, c'est des sondages, bon, plus ou moins justes, plus ou moins erronés, avec des concepts plus ou moins fous. Le vrai chef, ça veut rien dire de spécial. Et là, on a un édito, donc le Monde nous dit, bon, maintenant, je vais vous donner mon avis. Mais ça n'est que la vie du monde.
Bien sûr.
Parfois, il y a des messages tellement surréalistes que j'ai envie de vous les lire pour le content. Mais en même temps, on est sur des sujets tellement sérieux que là, j'ai pas envie. Donc, désolé. Certains ont failli avoir. Pourquoi tu m'as bloqué? Je bloque personne, Is, là, je t'ai pas bloqué. Je sais pas. Peut-être un truc de modération. J'ai pas accès à ton historique, donc je sais pas ce que t'as dit. Mais pour le coup, j'étais sur la lecture des journaux, donc ça n'est pas moi. Parce que moi, je fais ou tais-toi pendant 24 heures ou tu dégages direct. Donc si tu es revenu, c'est pas moi. Moi, c'est 24 heures de silence ou ban def. Donc si tu es là, c'est pas moi. Donc je sais pas pourquoi tu as été modéré. Merci, poète Renegade. C'est gentil. C'est l'âge, c'est l'habitude. Je te promets, tu m'as bloqué sur mon deuxième compte alors que j'ai rien fait. Ah! Alors, est-ce que tu. Is92, est-ce que. Moi, sur TikTok, il n'y a pas les historiques. Is92, est-ce que tu peux nous écrire ce que tu as dit, la dernière chose que tu as dit sur ton autre compte, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me le dire? Attendez, dites-toi rien les autres. Is92, est-ce que tu peux réécrire le dernier message que tu as dit sur ton compte précédent? Dites rien les autres. Petit plaisir. Je te laisse te rappeler. Ok. Et on va lire l'édito du Monde. Non, non, ça, des messages comme ça, j'en ai 100 000 depuis 3 jours. Donc ça, c'est pas un ban def. C'est la forme de la phrase. Est-ce que tu peux te rappeler de tes mots exacts? Parce que ça, le sujet, il y a un message sur deux qui est là-dessus. Donc ça, c'est pas un souci. Je suis assez patient par rapport à ça. Non, c'est la forme, les mots que tu as utilisés. Il n'y a pas une petite insulte, il n'y a pas. Y a pas espèce de pédo, par exemple, qui est un truc qui est assez courant en ce moment, là. Dans mon chat, il n'y avait pas un truc un peu comme ça, ou il n'y avait pas un autre truc, tu vois. T'aurais pas oublié un petit mot? T'es sûr? C'est bizarre. On lit l'édito?
Let's go.
La démocratie française est malade. Ah oui, si, pédo, j'ai le droit beaucoup en ce moment. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup ça, ouais. Et ouais. Ah, c'est Internet. Internet. Pourquoi en ce moment? Parce que j'ai pris le parti, comme vous le savez, de défendre une jeune femme qui avait peut-être essayé de porter plainte en justice affirmant qu'elle avait subi des violences. Et donc défendre une jeune femme, pédophilie. Voilà. Ne me demandez pas de vous expliquer la logique de ça. Je pense que nous ne sommes pas armés intellectuellement pour analyser ça, mais allez voir mes réseaux et vous verrez que c'est un petit peu mon quotidien. Mais moi, je suis assez habitué à tout ça. Tout va bien. On lit l'édito plutôt? Je pense que c'est plus intéressant. La démocratie française est malade et ses mots sont multiples. Depuis 12 ans, l'étude Fracture française, menée par l'Institut Ipsos pour le Monde, ausculte de façon très précise l'état de la société. En 2025, après des mois d'instabilité politique, merci Adrien, tu régales. Les résultats montrent une augmentation de la défiance, hein, du désespoir, du déclinisme, une volonté de dégagisme. Des symptômes particulièrement inquiétants qui illustrent la profondeur de la crise démocratique à moins de 2 ans de la prochaine présidentielle. Excusez-moi, je fais une petite pause. Oula. Ah ouais, désolé, Lord Foximos. Désolé, 32 messages dans l'historique, il n'y avait rien qu'à aller. Tu n'apportes pas grand-chose à cette communauté. Je suis vraiment désolé. À bientôt. Des symptômes particulièrement inquiétants qui illustrent la profondeur de la crise démocratique à moins de 2 ans de la prochaine présidentielle. Déjà immense, le fossé entre les électeurs et leurs représentants semble s'agrandir. Voilà. Ainsi, 96% des personnes interrogées se disent mécontentes ou en colère de la situation du pays.
Et si le premier mandat d'Emmanuel Macron n'a pas réussi à réenchanter la politique, tu m'étonnes, le second désespère une partie des Français avec de nombreux indicateurs en baisse depuis 3 ans. Aujourd'hui, 90% des sondés estiment que leur pays est en déclin, alors que ce taux n'était que de 75% seulement en 2022. L'exécutif concentre toutes les formes de défiance, mais aucune autre forme de pouvoir n'a réussi à recréer de la confiance. C'est ça le souci. De nombreux Français semblaient beaucoup attendre des législatives de 2022 puis 2024 qui ont rééquilibré les pouvoirs, mais le Parlement n'a pas su prendre le relais d'Emmanuel Macron, vu comme trop vertical. Après de multiples motions de censure, des débats éruptifs, la cote des députés est aussi en chute libre. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que le Parlement, et notamment l'Assemblée nationale et les députés, auraient pu bénéficier de la perte de crédibilité, la perte de popularité de la présidence, et en fait, non. Pas tant que ça, quoi. Crise après crise, la parole politique, donc globalement, ne cesse de s'abîmer. Depuis le début du mois de septembre, les Français ont vu un Premier ministre démissionner, puis dire qu'il ne rempilerait pas, avant d'être de nouveau nommé à la tête du gouvernement. L'exécutif qui a imposé puis défendu sa réforme des retraites a été contraint de la suspendre. La droite s'est une fois de plus illustrée avec un président du parti LR, Retailleau, provoquant la chute du gouvernement, vous vous souvenez de cet épisode, dans une stratégie inverse à ce qu'il défendait depuis 2024. La gauche se déchire, le RN, qui essaye de se notabiliser depuis des années, a promis qu'il censurerait tout, voilà, soufflant ainsi sur les braises comme il l'a toujours fait. Ce florilège de faillite individuelle et collective fait courir un grand danger. Voilà. Si 2/3 des sondés se disent encore attachés à la démocratie, des failles apparaissent. Désormais, 42% des moins de 35 ans pensent qu'un autre système serait au moins aussi bon. Et la tentation d'un pouvoir fort d'extrême droite existe aujourd'hui dans de nombreuses catégories de la population. Ces signaux devraient obliger tous les acteurs politiques et l'ensemble de la société civile à réfléchir de la meilleure façon de faire évoluer la Ve République pour la rendre plus ouverte et moins peureuse vis-à-vis du peuple, comme l'a défendu la politiste Hélène Landemort dans une tribune publiée dans Le Monde récemment. Convention citoyenne, qu'est-ce qui pourrait arranger un peu le truc ? Convention citoyenne, respiration démocratique au milieu du mandat présidentiel, référendum, notamment locaux. Les idées ne manquent pas. Au-delà de la dette et de la situation internationale, les candidats devront avancer des pistes sérieuses lors de la prochaine présidentielle, sous peine de voir les fissures et les fentes souterraines replâtrer à grand-peine, se rouvrir violemment, devenir des abîmes et des gouffres, selon les mots de Stefan Zweig, l'écrivain allemand qui analysait en 1941 la fin des démocraties européennes dans le monde d'hier. Voilà. Bon, je résume tout ça, c'est un peu la merde. Voilà. Je vous lis un petit peu. Et après, on aura un dernier sujet sur Airbnb. J'ai plus de café. Tintos dit, il n'est pas autrichien. Tu me fais... Oui, est-ce que le monde ne serait pas trompé ? J'ai dit allemand ? Tu crois que t'as raison, je crois qu'il est autrichien. C'est moi qui ai dit allemand ? Je crois qu'il est autrichien. Je crois que t'as raison. Zweig. Autrichien, merci. La déconnexion des politiciens aux problèmes populaires ne les rend pas attractifs. Oui. Merci de Killer Ewok. Le camp Cactus était formidable. L'équipe est géniale. Comme toute la Belgique d'ailleurs. Je vous lis. Hein. Oui, c'est la question. Alors, Alice Filoria, je me posais la même question. On a vu à l'instant que 42% des moins de 35 ans pensent qu'un autre système serait au moins aussi bon. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi, autre système ? C'est-à-dire autre chose que la démocratie ? Ou une démocratie différente ? Alice Floria écrit dans le chat, je me demande dans quelle proportion les personnes qui souhaitent essayer un autre système que la démocratie souhaitent en réalité un autre système que celui mis en place aujourd'hui. Sachant que de mon point de vue, en tout cas, notre système politique s'éloigne de plus en plus d'une démocratie. Oui ? Je suis assez d'accord avec toi. Sarkozy, il fait de la prison ferme. Sarkozy, il est en prison. Donc on peut parler de prison ferme. Oui, il est en prison depuis ce matin. Donc, je pense qu'on peut parler de prison ferme. Oui.
Vous me parlez de l'enfant qui a été enlevé, l'ado, là, je crois qu'effectivement, il a été retrouvé. Hein. C'est ce que nous disait le chat tout à l'heure. Comment peut-on dire que nous nous éloignons de la démocratie, demande Dr Brio. En fait, je pense que le sentiment des gens qui disent ça, c'est qu'en fait, notre système a l'apparence de la démocratie, mais que le comportement des acteurs politiques, en fait, donne le sentiment aux électeurs qu'en fait, les élus ne représentent, ne respectent pas leur mandat. Exemple, Macron a été élu face à Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Alors que il se peut sans doute qu'une vraie majorité de Français ne souhaitait pas sa réélection. Mais c'est un choix entre Le Pen et Macron. Et donc, beaucoup d'électeurs, qui ne sont pas des macronistes, notamment des gens qui venaient d'autres sensibilités, ont voté pour le président Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Et ça, le président Macron l'a reconnu, puisqu'il a dit quelque chose au lendemain de cette élection comme « Votre vote m'oblige ». Il savait bien qu'il n'était pas élu que par des gens qui le validaient lui et validaient son programme. Et donc, il aurait dû se comporter comme un président qui avait été élu par des Français assez différents et tenir compte quelque part de ces différentes sensibilités. Voilà. Et en ne respectant pas cela, eh bien, tous les gens qui avaient voté pour lui ont estimé qu'ils ne respectent pas le contrat finalement. Et ils ont raison. Ils ont raison. Donc ça, c'est un exemple, mais on peut prendre plein d'autres exemples comme ça, quoi. Le président Macron, depuis les dernières la présidentielle, ne cesse de nommer à Matignon des premiers ministres ou macronistes ou de droite, alors que les dernières législatives ont été marquées par une défaite de la droite et des macronistes. Et pourtant, c'est eux qui dirigent le pays. À un moment, les Français disent, y a un truc qui ne va pas. Voilà. Donc, on peut parler de fossé ou de démocratie qui ne fonctionne pas correctement, quoi. C'est quelques exemples, mais on peut prendre d'autres exemples. Et puis le fait que moi je pense que les Français, il faut les consulter plus souvent aussi. Peut-être que le référendum pourrait être un instrument pour revivifier un petit peu le lien démocratique, quoi. Allez, un dernier article sur Airbnb, parce que je voudrais bien votre avis là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez d'Airbnb? Moi, ça m'intéresse parce que il y a un article dans Le Monde là-dessus, sur le succès d'Airbnb en France, c'est un vrai carton. On est à 2h26. Vous mets une petite flèche. Hop. Alors, donc c'est le petit truc bleu là. Mais c'est en une du monde. Voilà. Carole me dit, j'en peux plus des Airbnb, on n'arrive pas à se loger. Et pendant ce temps, il y a des Airbnb partout. Airbnb, c'est un peu chiant, ça fait un tas d'apparts vacants en ville, me dit Heisenberg. Voilà. Honteux que des gens s'en servent de revenus alors que d'autres cherchent juste à se loger, me dit Kakatoa. Je vous lis, hein. Voilà. Airbnb, l'arnaque du siècle, me dit Julia, pour proprio et voyageurs. Merci Antonoir pour ton message. Ah, jamais eu confiance en Airbnb, me dit Audley, mais en même temps, c'est beaucoup plus pratique que l'hôtel, puis moins cher aussi parfois. Hein, il tue les hôtels et les locations pour les locaux, me dit Pays. Voilà. Bon, j'ai quasiment pas besoin de lire l'article parce que vous êtes en train de faire le débat et c'est très bien. J'utilise tout le temps Airbnb, dit-il, spam, jamais eu un souci en tant que voyageur. Je suis gérant d'un riad à Marrakech, je ne fonctionne qu'avec Airbnb de Deliprans. Cette plateforme est moins problématique que Booking pour assurer les paiements et les déconvenues. Je trouve que c'est quand même utile pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôtel, me dit Shay Gay. Vous avez vu le prix des hôtels, me dit Astral, c'est n'importe quoi.
Airbnb, c'était top à l'époque, c'était plus un plus pour les proprios et pas un business à temps complet, me dit Miss Marwell Who. Ah, lisons l'article, mais je vois que voilà, chacun, enfin, le débat inspire un peu quoi. Alors Airbnb, l'info, c'est que Airbnb a fait de la France son terrain de jeu favori. Voilà. En 15 ans, Airbnb s'est imposé comme le leader de l'hébergement touristique en France. Le leader de l'hébergement touristique en France, c'est Airbnb. Donc comprenez, j'ai l'impression devant les hôtels, hein. Je pense. 60% de plus qu'en 2018, l'Hexagone est désormais le deuxième marché d'Airbnb dans le monde. Airbnb créé en 2008 par Brian Chesky et Joe Gebbia, deux colocataires qui étaient désireux d'arrondir leur fin de mois à l'époque, en proposant la location d'un matelas gonflable dans leur appartement et un petit déj. Mais Airbnb, fait aujourd'hui, c'est venu de cette idée, Airbnb. Mais aujourd'hui, Airbnb fait face à une défiance croissante des municipalités liée à l'augmentation des hébergements touristiques, obligeant le site à se tourner davantage vers les services. Des municipalités qui dénoncent une aggravation de la pénurie de logements. Voilà. Air Bed and Breakfast, c'est ça. Air, ouais. C'est ça. Airbnb, c'est Air Bed and Breakfast. Air Bed, matelas gonflable, and breakfast. Ça vient de là. Exactement. Voilà. En 15 ans, donc, le site s'est imposé en France, pays des vacances, destination touristique phare, la France, grâce à un lobbying efficace et à une fiscalité douce. Voilà. Au point d'aggraver la crise du logement dans notre pays, voilà. La firme étend son offre pour poursuivre son essor. À Marseille, me dit Massilia, ils ont tué la location, augmentation des loueries, pénurie de logements. Devant l'église Saint-Germain à Paris, un drôle de ballet se déroule 5 à 6 fois par jour. Des deux chevaux colorés se garent en double file, récupèrent des touristes, puis partent vers le quartier latin. 2 heures de promenade, 95 euros par personne, ok. Un petit business qui doit son existence à Airbnb. On n'est pas dans le logement là, mais Airbnb est en train de se. Comment on dit? De se diversifier. C'est sur cette plateforme que les clients de Frédéric Béna, des Américains pour l'essentiel, achètent cette expérience. Sans Airbnb, je ne me serais jamais lancé, admet cet ancien financier qui possède 7 deux chevaux et emploie plusieurs guides chauffeurs. Merci Desmond Spy. Tournée des cavistes, par exemple, à Lyon, promenade chantée dans Montmartre avec une soprano, cours de pétanque à Marseille. Airbnb permet aussi de réserver des prestations à domicile, qu'on soit voyageur ou non, manucure, coiffeur, chef cuisinier. Je savais pas que moi. Je savais pas que ça existait, ça. Link me dit, les expériences Airbnb sont vraiment sympas. D'accord. Une entreprise qui permet le développement, c'est bien, me dit Franck Leca. Vous connaissez ça? Alors sympa tout ça, me dit Joya, mais à côté, tu as les gens qui peuvent pas se loger. J'ai fait des expériences trop bien sur Airbnb, me dit Linley. Salut Eden, tu vas bien? T'as changé de pseudo d'ailleurs, mon Hugo, hein? Il y a eu changement de pseudo récemment, non? Donc, après avoir. Ouais, le Eden Blaster, ouais. Je me demandais si tu avais marqué. J'avais remarqué. Les petits changements cosmétiques, là. On retrouve l'ancien pseudo, mais pas tout à fait, ouais. Donc, après avoir dynamité le marché de l'hébergement touristique, la multinationale américaine s'imposera-t-elle dans celui des activités, voilà, et plus globalement des services à la personne. C'est l'ambition de la direction qui a annoncé en mai un investissement de 200 millions d'euros pour mettre sur orbite ces nouvelles dimensions. Enjeu, capter davantage de dépenses des voyageurs. Le principe est simple, attirer des micro-entrepreneurs et prélever une commission entre 15 et 20% sur chaque prestation vendue. Contrairement à ses concurrents, déjà présents sur ce marché des activités. Attendez. Attendez. Je regarde juste un réglage. J'arrive. Ok.
Ah, mais c'est génial! Attendez, je viens de changer je viens de changer un petit réglage sur TikTok. Mais je vais vous expliquer, mais c'est génial! Mais je viens de penser à un truc. Mais oui, mais on va se régaler. Oh, t'as deviné, Carole, que je suis en... Vous avez deviné ce que je suis en train de faire ou pas? Non, je suis pas en train d'interdire des mots, pas du tout, c'est bien plus subtil, c'est bien plus malin. Malin que ce lynx. Mais moi, ça fait très peu de temps que je fais du live sur TikTok. Et avant, jusqu'à il y a 2 secondes, le chat était ouvert à tout le monde. Mais tout le monde, tout le monde. Alors que sur Twitch, il faut follow la chaîne. C'est-à-dire que pour pouvoir dire quelque chose dans le chat, et y compris de venir un petit peu titiller le streamer, voilà, bah sur Twitch, il faut le follow, ce qui augmente les stats. Mais pas sur TikTok, je ne l'avais pas mis. Mais c'est formidable ça. Donc ça maintenant, pour pouvoir dire quelque chose dans ce live, il faut follow la chaîne. C'est bon ça. Ah, vous êtes en train de me faire péter mes stats. On va avoir moins de spam. Oui, mais c'est l'objectif surtout, c'est du coup ça fait plus de followers. Regardez tous les gens qui sont en train de follow. Ah, j'aurais dû faire ça hier. Non, mais c'est moi, c'est pas pour l'idée, c'est pas de censurer, juste, c'est juste pour faire du coup, c'est-à-dire que même quelqu'un qui vient pour des avec des raisons d'ambition un petit peu, comment dire, de polémique, bah, ça fait un follow quoi. Pas con ça. Putain, j'aurais dû faire ça. J'ai plein de nouveaux follow là. Putain, j'avais. Mais ouais. Alors que sur Twitch, c'est basique, on fait tout ça. Ok. Ah ben voilà. Bonne chose de faite. Oh, il y a Lucie qui gère ma chaîne TikTok, qui va être tellement contente. Et ça follow, et ça follow, et ça follow. J'adore. J'adore. Oh, on aurait dû le faire hier ou avant-hier, ça. Dommage. Bon, on continue. Voilà, donc Airbnb veut se diversifier. Voilà, d'ici 3 ans, Airbnb estime pouvoir tirer un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars de cette nouvelle activité. Petite fraction des 11 milliards de dollars qu'il a réalisé en 2024 sur son cœur de métier, la location courte durée. C'est cool qu'il y a plein de follow sur TikTok là. Vraiment, je m'en félicite. Vraiment, les gars, vous régalez, hein. Mais, donc jusqu'ici tout va bien, mais là où les nuages s'amoncellent, alors que les budgets vacances se resserrent dans ces principaux marchés, et que de New York à Barcelone, en passant par Paris, Saint-Malo ou Annecy, les réglementations locales se durcissent. Si le groupe est aujourd'hui au fait de sa puissance, des signaux indiquent que pour les meublés touristiques, la fin de l'âge d'or approche. Voilà. Hein, le patron de l'entreprise déclarait en septembre qu'il n'était pas content du taux de croissance de son entreprise. Et que la diversification était nécessaire. Voilà. Quelle semble loin cette année 2008 qui a vu naître Airbed and Breakfast, matelas gonflables et petits déjeuners. La légende des débuts a été racontée à l'envi. Donc fin 2007, deux personnes, Monsieur Shensky et Joe Gobia, deux colocataires qui s'étaient rencontrés à Rhode Island dans une école de design, cherchent à arrondir leur fin de mois. Alors qu'à l'occasion d'une conférence de design, les hôtels de la ville étaient pleins, ils proposent à des particuliers de dormir dans leur salon sur des matelas pneumatiques contre rémunération. Voilà. Germe alors l'idée de créer un site internet pour permettre à n'importe qui de faire la même chose, d'offrir ce type d'hébergement chez soi, d'appoint. La formule s'étend à des logements entiers, les prestations deviennent de plus en plus qualitatives, voilà, portées par une plateforme ergonomique, par l'importance qu'Airbnb attache aux belles photos. Le succès est fulgurant, vous connaissez la suite de l'histoire. Plus de 5 millions d'hôtes, 2 milliards de voyageurs depuis sa création. En France, le site arrivé en 2012 a acquis une position royale. L'Hexagone est son deuxième marché mondial. Derrière les États-Unis, le seuil du million d'annonces y a été dépassé cet été. La marque est devenue un nom commun, un verbe, une esthétique. Si la plateforme a explosé en France, pourquoi ça marche aussi bien en France? C'est qu'elle y a trouvé un terreau très favorable. D'ailleurs, en France, elle n'a pas inventé la location saisonnière entre particuliers. Son tour de force a été d'absorber l'offre qui existait déjà de Gîtes de France, par exemple, ou de manière informelle, et d'en agrémenter une nouvelle, celle de centaines de milliers de propriétaires qui se sont mis à louer leur résidence principale ou secondaire, attirée par la simplicité et l'efficacité de la plateforme. La greffe a très vite pris, le marché immobilier français s'y prêtait, avec ses 3,7 millions de résidences secondaires, sa fiscalité très avantageuse sur la location de courte durée, donc il y a un cadre fiscal qui a permis le développement d'Airbnb en France. Donc vous voyez que la politique n'est pas loin, parce que la fiscalité, c'est la politique. C'est 14h ma réunion, je me dépêche. J'ai repoussé de 30 minutes pour rester un petit peu avec vous. Ouais. Donc vous voyez, la politique n'est pas loin. Le système s'est avéré tellement rentable qu'il a amené de multiples investisseurs sur ce marché. Il y a plein de propriétaires qui se sont mis à louer ou leur résidence principale ou secondaire. Si Airbnb a fait un carton en France, c'est aussi parce que l'Hexagone est le pays des vacances. Paris est la première destination touristique au monde par le nombre de visiteurs. Les Français jouissent par ailleurs d'un nombre de semaines de congés supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Le marché domestique est énorme, etc., etc. La formule à vide, c'est lui, moins cher que les hôtels, vous en parliez tout à l'heure, plus confortable, plus tranquille que le camping. Elle offre la possibilité de partir en famille ou en groupe en cuisinant, comme chez soi. Il semble qu'un certain Macron avait directement négocié avec le patron d'Airbnb à l'époque. Attends. Oui, à l'époque où il était encore ministre de Hollande. Je crois que tu as raison. En fait, j'aurais une demi-heure de plus. On aurait fait des recherches là-dessus. Parce que je crois que le président Macron, notamment quand il était ministre des Finances, il a joué un rôle très important dans la création du cadre qui allait faciliter la progression d'Airbnb sur notre marché. Voilà. Et là, je manque un petit peu de temps pour faire des recherches là-dessus, mais je crois que cette info est juste. Cette info est juste. Et pas que avec Uber, pas avec Uber. Il y avait aussi, un truc aussi autour de ça. Mais là, je le dis avec beaucoup de précaution parce que je n'ai pas le temps de creuser là-dessus. Là, j'ai une réunion dans quelques minutes. Mais donc, prenez cette information avec des pincettes. Airbnb, il y a quelque chose, et puis Uber, il y a quelque chose, et Airbnb, je crois qu'il y a quelque chose aussi. Au fil de son expansion, la firme s'est mis à dos presque tout le secteur de l'hôtellerie en France, qui dénonce une concurrence déloyale. Les hôteliers ont des tas de contraintes, doivent respecter des normes, ont des charges bien plus élevées, des tas de petits établissements sont en grande difficulté face à cette concurrence, ça c'est vrai. Et pourtant, depuis 10 ans, le nombre de chambres et leur taux d'occupation sont restés globalement stables. L'offre Airbnb s'est ajoutée sans siphonner la clientèle de ces établissements. Voilà. Et puis il y a la tension sur le marché de l'immobilier. À Paris, la hausse du nombre de meublés touristiques est concomitante de l'envolée des prix de l'immobilier, de la chute du nombre d'appartements disponibles en location longue durée, donc de la difficulté croissante à se loger. De la baisse de la population, de la fermeture de classes d'école, etc., etc. Paris et Nice ont d'ailleurs été les premières à mettre en place des mesures locales d'encadrement. Il y a tout un passage sur le lobbying d'Airbnb en France. Attends, l'article il est beaucoup plus gros que ça. Ah, j'ai un article que j'ai loupé là. Il y a une deuxième page. Ok. Bon les amis, je vais manquer de temps pour vous le lire. Je vous invite à aller le voir dans la dernière édition du Monde. Cet article sur Airbnb très complet. J'espère qu'il est disponible sans abonnement. Là je suis en live depuis 2h42 et je dois vous laisser parce que j'ai une réunion dans 7 minutes que j'ai reportée pour rester un petit peu avec vous parce que ce matin j'ai accompagné quelqu'un à l'hôpital
Et du coup, j'ai lancé mon live beaucoup plus tard. Merci les amis, merci à ceux qui viennent débattre de l'actualité, merci à ceux qui viennent aussi m'interpeller sur la polémique du moment. Ça booste les stats et c'est vraiment très gentil de votre part. Merci Camille pour les 5 abonnements offerts à la commune, merci Jeune Barbecue pour le raid, merci Tiam, merci Zertis, merci Oldinox, merci Patty, merci Natortank. Le prochain live, peut-être ce soir sur Twitch pour du gaming. Demain, ça c'est sûr, pour MVP, émission dont je suis extrêmement fier, c'est la deuxième saison, MVP, ma vie pro, c'est l'émission qui explore les voies professionnelles, les métiers, les secteurs d'activité, l'orientation, pour que chacun puisse trouver la sienne. Tu es jeune, collégien, lycéen, étudiant, tu réfléchis à ton avenir pro, ou alors tu travailles déjà, mais tu as envie de changer de taf, de boîte, parce que tu n'étais pas forcément au top dans ce que tu fais. MVP, c'est une émission qui parle de ça 2 fois par mois. Donc demain, à 10h, on a notre bande de chroniqueurs, on a Ludovic B, Jean Massier, Lorraine Lévy. On va parler de plein de choses demain, de plein de métiers, de plein de trucs, et notamment de santé mentale au travail. Voilà. Il y a des petits jeux, il y a des infos, il y a des chroniques. Voilà, c'est sympa, c'est entre 10h et midi. À 9h, je vous fais une mini-revue de presse pour vous donner quand même l'essentiel de l'actu. Dans l'après-midi, je ferai une revue de presse plus longue pour que vous ayez quand même une vraie grosse revue de presse, mais genre demain après-midi, voilà, quand je rentrerai à la maison. Et puis à midi, c'est marqué 11h30, mais je pense que ce sera plutôt midi, vous avez l'invité MVP, qui est la principale invitée de l'émission, qui est Catsup. Kalina, créatrice de contenu, youtubeuse, streameuse, que j'adore, voilà, qui nous a bluffé, notamment au GP Explorer, par ses talents de pilote. Voilà. Amis de TikTok, je vous dis au revoir, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, et je vous dis, alors pas demain TikTok, mais un jeudi matin, pour la revue de presse. Ah non, non! Demain après-midi, la revue de presse, elle sera sur TikTok aussi. Ok? Salut les beaux gosses. Ciao, ciao. Et à mid-Twitch, j'aurais dû mettre le follow obligatoire pour écrire sur TikTok beaucoup plus tôt, moi. J'ai pas pensé. C'était drôle. Merci pour le live, c'était un plaisir. Voilà, je vous attends. Alors je vais essayer de faire du gaming ce soir, mais ça dépend parce que faut que j'écrive MVP. C'est un petit peu de travail. J'ai pas vu la proposition de raid par contre, Original Pimou, je l'ai pas dans mon c'est qui. Voilà. Et donc moi je vous retrouve ce soir peut-être pour du gaming. Demain matin, ça c'est sûr, pour la revue de presse pour MVP. Demain après-midi pour une revue de presse peut-être un petit peu plus longue. Voilà, tout ça quoi. C'était quoi la proposition de raid, les amis? Il est où Sarko? Il est en prison, il est à la santé. C'était quoi la proposition de raid? Un raid chez Kayane? Oh bah avec plaisir en vrai. T'es le Kaido, ça va? Quoi, il y a Jean Massier qui est en live aussi? Bon bah si Jean est en live, alors qu'il vient demain dans MVP, let's go. Hein. C'est une très bonne idée, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jean. Très bonne idée. Yo mon Jean. Bah oui, il est en live. Il en est à 3 minutes 30. Eh ben on va lui booster son live. Hein? Allez. Là, il est en waiting screen, 3 minutes 25. Ils sont déjà 714 à attendre son live. Hein? Eh ben let's go. Très bonne idée. Comme ça, ça va lui faire un beau début de live. Jean Massier. À ce soir, les amis. Ou demain matin, vous êtes les meilleurs. Merci pour tout. Ça charge. Chargez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.
Bougez pas, j'arrive. Non, attends, c'est débile, vous venez d'arriver. Attendez, bougez pas. Bougez pas, générique.